I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sugar Free, c'est Aski Sugar qui vous parle. Je tiens déjà à vous féliciter de l'excellent choix de podcast que vous écoutez, puisque vous êtes déjà en train d'écouter cet épisode. Aujourd'hui, je recevais Clément Kersual et Richard Sabac, deux humoristes...
Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai envie de dire en intro en fait?
Ok, c'est quoi? Écoutez. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sugar Free. C'est Aski Sugar qui vous parle. C'est une intro absolument superflue parce que j'ai rien de particulier à dire, si ce n'est que, procédure habituelle, j'ai reçu deux humoristes pour déconner avec eux et qu'au final, on a parlé politique. Comme d'habitude. C'est marrant parce que je réalise qu'à chaque fois que je reçois des gens qui commencent à devenir des potes, le contexte du podcast fait, je crois, le fait que peut-être on soit filmé, etc. Tout de suite, ça, on a envie d'être sérieux, comme si on allait être écouté par France Télévisions. Et il y a ce truc où, bah ouais, on est obligé de parler de l'Ukraine un peu. Alors, bien sûr, toujours en envoyant d'autres blagues, mais on a besoin de parler de l'état des choses politiques actuelles. Et ensuite, on se déride un peu. Et probablement, voilà, Clément et Richard, si je les recevais une nouvelle voix, ça irait totalement dans le n'importe quoi. Mais, et la blague pure. Mais c'est vrai que là, ok, on a parlé en fait... alors quand je dis politique, je veux pas dire genre oui, on n'a pas parlé des programmes de Pécresse et d'Hidalgo ou je sais pas. Non, c'est juste que il peut y avoir par exemple de la politique dans le stand-up, dans le sens où tiens, comment on peut avoir du succès, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on est obligé de faire dans l'état actuel des choses, de l'art, les médias, etc., etc. Et après, c'est toujours intéressant d'avoir l'avis de différentes personnes qui viennent de différents temps et milieux, qui ont commencé le stand-up pas forcément au même moment, mais qui se retrouvent à avoir, à devoir percer, entre guillemets. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Franchement, c'était très cool de parler avec eux et ce seront les bienvenus à n'importe quand. Chez Sugar Free, n'hésitez pas à vous abonner à leurs réseaux sociaux, Instagram, etc. Et pour Richard, allez le voir en spectacle tous les dimanches au Point Virgule. Clément K, ses dates sont données sur son Instagram parce que je sais qu'il a des dates à Marseille notamment. Et moi, tous les jeudis à la Petite Loge, voilà. Et profitez bien, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Vous verrez d'ailleurs que cet épisode a été enregistré en direct sur Twitch, parce que je commence à faire ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à mon Twitch, parce que parfois, vous allez pouvoir voir la version longue des épisodes en direct. Ou d'ailleurs, on interagit avec vous si vous nous envoyez des questions pendant qu'on parle. Et d'ailleurs, vous verrez que pendant cet épisode, il y a eu quelques questions de Twitchers. Merci à eux d'ailleurs. On les remercie à la fin de cet épisode et merci à toutes les personnes qui contribuent à mon Patreon. Patreon, c'est un endroit où vous pouvez mettre genre 2 euros par mois pour un artiste, ce qui permet en fait d'avoir, en l'occurrence pour moi, des épisodes exclusifs, parce que j'en enregistre quelques-uns, et vous pouvez voir des extraits sur mon Instagram ou l'Instagram de Sugar Free, ou sur mon YouTube d'ailleurs. Et voilà, ça me permet d'avoir une relation spéciale avec vous, et aussi ouais, de faire du contenu exclusif et de maintenir en vrai le podcast sans mettre forcément de la pub à l'intérieur pour Monsanto ou Dassault Systèmes, quoi. D'accord ? Cela dit, c'est open. D'accord ? Si vous avez une marque spécialement d'armes, je suis vraiment intéressé par faire la pub de votre arme dans mon podcast. Voilà. Bisous à tous. Profitez bien.
La question, c'est de savoir est-ce que tu veux pouvoir avoir une chance de faire ce métier avant de le faire comme tu l'aimes. C'est d'abord c'est il y en a un qui a fait ça et qui l'a très mal fait, hein. C'est Dieudonné,
ouais.
Qui arrivé à un certain niveau de notoriété a dégringolé dans une folie petit à petit, ouais. Là où c'était encore drôle, puis après il y a une césure, un fossé où là on pouvait plus le suivre. Mais alors que c'est pas un discours lycée là, mais moi j'étais capable de le suivre jusqu'à un certain moment. Et il y a une rupture après quand il faisait ses vidéos là sur YouTube. Là, je me suis dit, ouais. Il part trop loin en fait. Et il est trop con. Ouais. Et il a vraiment pété un plomb. Je voulais pas le dire jusqu'au bout, mais il a vraiment pété un plomb. Et donc, à partir de là, il peut se permettre de faire de la merde. Mais s'il avait commencé avant cette césure où je t'ai dit.
À
une
faire
rupture,
de la merde, oui. Il aurait pas
de la merde, mais genre.
Il aurait pas eu accès
il
même.
Il n'aurait jamais eu accès. Ouais. Rien du tout.
Bah, après, ça, c'est le gros truc difficile. C'est-à-dire que. Moi, est-ce que moi je vais regarder ou plus facilement aller regarder quelqu'un ? Mais en fait, moi je crois que oui, parce que il y a des gens que moi j'ai écouté ou j'ai vu leur set, etc. aux États-Unis et je suis devenu fan d'eux, alors qu'ils sont pas ils sont pas connus. Ils sont moins genre.
Comme qui par exemple ?
Par exemple, Tim Dillon. Tu vois ou pas ? Maintenant, il est devenu ultra connu parce que bah en fait le gars est drôle quoi.
J'aurais dû prendre mon téléphone parce que j'aime pas ne pas savoir.
Ah ouais. Mais après voilà, il a été coopté par d'autres personnes qui ont beaucoup de followers, etc. Tu vois, genre si t'es invité chez Joe Rogan et que tu montres que t'es drôle, oui, tout de suite il y a des gens. Mais c'est un gars, il a créé un peu sa renommée parce que c'était le gars et moi j'arrête de dire des trucs lisses, rien de spécial, etc. Ouais. Je fais rire, je me parle. Et en plus, j'avoue que je ressens une certaine. Tu sais, moi aussi, j'aime bien parler des théories conspirationnistes et tout ça.
mais plus pour en rire.
Mais en rigolant.
Que sérieusement.
Oui, oui. Et en rigolant, d'ailleurs, des gens qui prennent ça au sérieux, etc. etc. Mais. Enfin, bref.
Putain, j'ai des potes qui le prennent très au sérieux.
Ouais mais Risky, t'es très sérieux la dernière fois sur les mondes parallèles.
J'ai des potes qui ont des certitudes sur des choses qui sont populaires, qui existent. Yes. Par exemple, est-ce que l'homme est allé sur la Lune ? Il y a une espèce d'ambiguïté qui existe toujours dans une certaine légende urbaine, etc., etc. Mais j'ai des potes, quand tu dis bah, « En vrai, vas-y, on sait pas en vrai, tu vois ?» Il va te dire « Mais t'es complètement con! L'homme, il a été sur la Lune! » Et il y a des gens qui défendent.
Qui se mettent en colère, tu veux
dire.
Qui
ont une ferveur à défendre le fait que l'homme est allé sur la Lune, comme d'autres personnes qui ont une intime conviction que l'homme n'a jamais été sur la Lune. Et ils sont prêts, alors que fondamentalement, qu'il y soit allé ou pas, on s'en bat les couilles. Mais il y a des gens qui ont des croyances, qui choisissent leurs croyances et qui vivent intensément leurs croyances. Ouais. Et moi, je pense que ce qui me fait le plus rire, c'est pas de savoir ce qui est vrai ou faux, c'est de voir ces gens qui ont une certitude dans leurs croyances et qui les défendent corps et âme comme si c'était le prophète de Dieu, tu vois.
Mais c'est marrant de voir les. En fait, c'est des nouvelles religions pour moi. C'est la façon. En fait,
c'est ça. C'est des nouvelles religions.
C'est au lieu de te dire j'ai Allah, j'ai Jésus.
J'ai le féminisme, j'ai les LGBT.
En fait. Ouais. Et pour moi, les reptiliens, si t'y crois pas, c'est que déjà le démon t'a pris déjà. Tu vois.
C'est tendancieux déjà de dire que le féminisme, les LGBT, ce qui est des droits individuels qui doivent être défendus par des communautés et qui sont tout à fait légitimes, de dire est-ce que ce n'est pas simplement des croyances ?
Ah oui, c'est vrai.
déjà, j'accepte d'aller dans le tendancieux à ce niveau-là, tu vois.
Même existe-t-il vraiment? Mais tu vois, mais en fait, c'est con, mais... enfin, après, tu peux se moquer, même si c'est juste gentiment, tu vois. Se moquer, genre... Se moquer, c'est aussi déjà rentrer dans le truc de... Enfin, moi, j'ai envie qu'on se moque des choses pour lesquelles même je suis d'accord et 100% d'accord, tu vois.
Oui, mais qu'on se moque avec bienveillance, par exemple.
Oui,
en
oui.
Fait, c'est pas... Mais c'est même pas une question de bienveillance. En fait, moi, là où je mets le mot bienveillance, c'est baliser une conversation pour ne pas se mettre en porte-à-faux. Mais ce que j'entends par baliser, c'est ne pas heurter la sensibilité des gens. Mais de toute évidence, quand je formule une critique, et c'est toujours ce que je fais... Dans l'absolu, je m'en bats les couilles. Si par là, en venant, j'ai un de mes potes qui veut voter Macron à fond,
ouais,
et qui m'avance des arguments, etc. En mode, mais toi, tu veux pas voter Macron parce que si, parce que ça. Et il le dit avec ferveur, tu vois, vraiment, ouais. il en est convaincu. Et donc moi, je lui dis quoi? Je lui dis, bah non, regarde, parce que ça se défend par ça, ça, ça. Regarde, tu me dis ça, regarde, c'est absurde. Regarde ça, regarde le constat de Macron. Non, Macron, c'est super bien, mais regarde, le prix de l'essence, il est à plus de 2 euros. On est bientôt en guerre, on a traversé une crise sanitaire. Il y a eu la question des gilets jaunes. Je veux dire, je peux pas être plus factuel que de te dire que c'était de la merde, son mandat.
Oui.
Même si tu veux le défendre sur le côté économique. Etc. Et non, il défend. Et moi, je lui dis à la fin, dans l'absolu, frérot, franchement, tes convictions politiques, je m'en fous vraiment, mais je m'en fous des miennes aussi. Moi, je t'aime pour... qui tu es, et
ouais,
pas pour ce que tu penses. Et dans l'absolu, on sera peut-être jamais d'accord, mais j'en ai rien à foutre. Mais il y a des gens, et c'est là où j'en reviens à ce qu'on disait, il y a des gens, pour eux, c'est important. Et moi, quand je formule une critique, par exemple, sur le féminisme ou sur l'homosexualité ou sur des trucs comme ça ou sur des combats, ou des... c'est vraiment en toute légèreté. Genre, de toute façon, je prends les couilles. Mais est-ce que factuellement, c'est pas drôle? Est-ce que factuellement, c'est pas drôle? Est-ce que j'en parle dans le spectacle? C'est pas drôle que le rasoir rose jetable coûte beaucoup plus cher que le rasoir bleu?
C'est vrai, ça?
Ouais. Ouais, et moi je leur dis aux meufs sur scène, bah, achetez le bleu, en fait, ouais, on s'en bat les couilles. Ah non, le rose, on s'en bat les couilles du concept marketing, tu vois.
Ouais, ouais.
C'est ça qui me tue.
Et c'est le même rasoir, il fonctionne pareil, c'est...
En vrai, de vrai, de vrai, oui, oui et non. En vrai, t'as vu, il est là.
C'est l'odeur du gel qui...
T'as
qui
vu a... le gel.
Ouais,
c'est ça. Elles ont quand même des gels qui sont beaucoup plus énormes. Mais
ah,
je crois
ouais,
que le rasoir
ça coûte
Bic,
7 euros de plus, le gel.
Ouais.
Chaque millimètre de gel. Genre le gars qui défend non, trop. Non, parce que je vous dis, j'ai acheté des parts de chez Gillette, donc il n'y a pas moyen qu'on commence à...
Pas ce sujet, en fait. Voilà, tu veux lisser, on va lisser ce sujet-là, en fait.
Comparativement, je crois vraiment qu'il y a, tu sais, le Bic bleu, le Bic rose, et le rose coûte beaucoup plus cher. Maintenant, ça a dû être changé, parce qu'il y a eu notamment une vidéo de Fresh qui avait été faite par notre bien-aimé Charles Nouveau, où il en discute, et c'est ça qui m'avait motivé, même pour être honnête, à écrire dessus, parce que je m'étais dit, putain, on est encore sur ce genre de débat,
ouais.
Alors que je pense que le débat le plus important, et celui qui me fait le plus de peine, c'est le harcèlement dans la rue.
Ouais.
Ça, vraiment, sincèrement, je comprends pas qu'il y ait encore des mecs que... On a le droit d'être grossier dans ce podcast, parce que vraiment, c'est des fils de pute.
Oui.
Vraiment, c'est incroyable à quel point il y a encore des mecs qui ont, tu sais, cette espèce de pulsion de testostérone, qui soient capables d'aller casser les couilles à des meufs dans la rue, etc. Mmh. Et ce que je trouve injuste dans le féminisme, est-ce que j'en... je sais pas si ça rend juste, mais tu biperas des trucs.
Non,
ce que je trouve injuste,
tu veux t'arrêter là?
C'est que elles ont raison sur ce genre de débat, par exemple les mecs, le salaire, etc.
Genre... Ah oui, trop bien. J'attendais ce que tu dis. Elles ont raison sur le harcèlement de rue, mais les salaires. Vous...
Les salaires, non, ou pas. Non, mais ce que je trouve injuste, par exemple, c'est cette, c'est le fait que des gens tout à fait normaux, j'imagine comme vous, j'espère que vous êtes pas des fils de pute dans
on
la
se
vie.
Je connais pas. Hein.
Mais j'espère que vous êtes pas des. C'est que c'est les mecs comme nous qui en paye le prix dans,
ouais,
une conversation quand on est maladroit et,
ouais,
qu'on nous reprend en,
mais...
disant « ça, c'est du mansplaining,
ouais,
ça, c'est du truc, ah, t'as coupé la parole. » Mais cousine, va faire la guerre aux rebeux dans la rue qui te cassent les couilles ou aux politiciens qui te payent moins cher. Mais,
ouais,
la vie de ma mère, moi, je te respecte.
Bah, c'est la même,
mais
chose
va pas
que...
trop loin, tu vois. Genre,
c'est la même chose que les limitations de vitesse, c'est ce que dit Jim Jeffries. C'est parce que si on roule tous, on est tous obligés de rouler à 30, c'est parce qu'il y a un connard qui a renversé des gens et on paye pour tout le monde. Donc, faut en vouloir à nous, faut s'attaquer qu'à ces mecs. C'est à cause de ces mecs-là qui dépassent les bornes que même nous, quand on est tous à peu près des gentils, on a moins de marge de manœuvre, quoi.
Tous, après, tu l'as dit, je te connais pas, moi. Mais
de quoi
tous.
Oui.
Moi, tous. En tout cas, je sais.
Que t'es quelqu'un de bien.
Tu doutes fortement.
Après, ça peut se sentir, moi, Risky, ouais, je pense que...
Non, mais en fait, c'est ça que je trouve affreux aussi, c'est que souvent, quand j'ai ce genre de discussion avec des personnes, moi, je sais que on s'entoure généralement de personnes qu'on estime ou qu'on,
ouais,
en termes de principe et tout. Et les gens autour de moi, les hommes que je connais autour de moi, mais il n'y en a aucun, même mes potes, quand ils vont me dire « Ouais, cette meuf, j'ai couché avec elle, mais je ne crois pas que je vais la rappeler. » On est dans ce débat de... mec, c'est un... en fait, fais pas ça. Déjà, t'es un fils de pute de faire ça. Tu sais, on est dans la protection de l'humain.
Là, tu lances tout, là. Alors, entre le harcèlement de rue,
ouais, ouais. Moi, je rappelle pas. Ouais, ouais, attention. Attention.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui m'entourent, si on voit par exemple une fille se faire agresser dans la rue ou un truc, on y va tous. On y va. Lui, moi, tout... on a des automates. On l'a déjà fait. On le... enfin, et je comprends pas qu'il y ait une majorité.
J'ai assisté à plusieurs.
Bon, après, le courage, ça s'achète pas au supermarché.
Mais... eh ouais, c'est ça.
Mais bon, et c'est... je comprends. J'ai encore du mal à concevoir qu'il y ait une minorité qui prend autant de place, une minorité de connards qui prend autant de place dans le débat public. Alors, tu es persuadé qu'on est beaucoup plus de gentils que de méchants.
Mais est-ce que c'est juste parce que ça rend le débat public vachement plus attrayant et justement, je peux plus facilement mettre mes pubgilettes dans le débat public quand ça, tu polarises tellement que du coup, ça devient des matchs de catch, quoi.
Là, je crois que ça commence à devenir gênant parce que je viens de réaliser qu'on était que trois mecs autour de la table et qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de parler de ça.
Cela dit, tu vois, moi, j'ai toujours été un gars... en fait, moi, tu vois, genre les trucs ultra scientifiques et universels, j'étais toujours attiré par ça, tu vois. Ouais. Moi, j'aime bien avoir, la loi universelle. Et c'est comme ça. Et du coup, tu peux pas contextuer. Enfin, faut avoir une base. Science, c'est la science. Et du coup, voilà, si ça marche, ça marche comme ça, etc. Et en fait, c'est vrai que plus ça va, plus effectivement, tu te rends compte. Le contexte a à voir énormément à ça. Et tu disais, genre, on s'entoure de gens bien. Et bien, en fait, quand tu t'entoures de gens où, bien évidemment, tu n'es pas raciste, t'es pas sexiste, etc. Du coup, toutes les vannes qu'on se fait entre gens où on se dit, nous, on veut en vrai le bien pour tout le monde, ben en fait, il y a zéro limite aux vannes qu'on se fait. Parce qu'on sait que le substrat, il est bienveillant, en fait.
Ouais. Donc, en fait, on ordinarise quelque chose qui ne doit plus être ordinaire, c'est ça ?
Alors, mais du coup, c'est ça le truc, c'est qu'on n'ordinarise pas vraiment parce qu'on sait...
C'est une néologie, hein, on précise parce que les gens, ils vont se dire...
On sait très bien que derrière, dès que tu sors de ton groupe de potes que tu sais bienveillant, dès que tu as la parole publique, tu te dis, bon, en fait, oui, il y a des vannes que je ne vais pas rajouter. C'est-à-dire que moi, tu vois, typiquement, le truc de Dave Chappelle, des trucs transphobes, etc. Genre, je me dis, en vrai, moi, j'ai pas spécialement de vannes à faire sur les transgenres ou quoi que ce soit, qui vont pas juste être encore un truc à rajouter sur le fait que déjà, c'est bon, leur vie est difficile, je m'en bats. Je m'en bats les couilles, tu vois. Il y a un côté, ok, j'ai pas envie de rajouter un truc pour dire. Après, attention, hein, s'il y a quelque chose par contre, mais après, c'est mon humour. C'est vrai que je peux me moquer par contre, effectivement, de ce que toi aussi tu ramènes sur le débat public.
D'accord, ouais.
C'est-à-dire que voilà, si je vais pas me moquer de quelqu'un qui est transgenre et de sa vie, en fait. Par contre, si effectivement on ramène certains concepts qui rendent, je sais pas, et là je parle plus des transgenres, mais en général, tu vois, qui rendent absurde la société,
ouais.
Là oui, là j'ai envie tout de suite d'en parler, quelle que soit la personne qui en parle. Mais peut-être que j'ai beaucoup d'autres choses à dire avant d'arriver sur le fait qu'un jour, un non-binaire à la télé ait dit un truc que je suis, tu vois, etc. etc. Je me dis, en vrai, j'ai plein de trucs à traiter avant. Mais ça, c'est moi et c'est aussi effectivement par rapport à ma peur de la place médiatique. Parce, parce que effectivement, c'est peut-être plein de gens qui sont trop en mode ah oui. Très souvent, tu as un public, tu sais, dès que tu dis un mot, t'as même pas commencé à dire la vanne, ils disent « Ah, ce thème-là, c'est de chier. Ce thème-là, c'est... Mais laisse-la finir sa vanne, en fait. » Tu vois, c'est très drôle.
C'est tellement compliqué, ce débat, parce qu'il ouvre la porte à tellement d'autres choses. Parce que déjà, parce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée d'Internet, il y a ce qu'on appelle, je vous invite à voir des trucs dessus, ce qu'on appelle la révolution démocratique. Donc, on a libéré la parole là où à l'époque, la parole était réservée à certaines personnes qui étaient choisies à la télé pour pouvoir dire des choses. Alors, il y avait une certaine rétention de l'information ou un certain privilège, mais du coup, la parole était un peu plus qualitative.
Ouais.
Aujourd'hui, le fait qu'on ait ouvert Internet, on a donné la parole à beaucoup plus de cons qui s'enferment dans du militantisme, dans du fanatisme, dans les commentaires, qui ont du temps à perdre parce que forcément, les gens qui travaillent et qui sont intelligents n'ont pas que ça à faire que de répondre sous des commentaires Facebook. Ils s'enferment dans des espèces de péninsule cognitive de bêtises, ça crée du fanatisme et j'ai l'impression que c'est ça aussi qui ramène sur la place publique. Il y a des épiphénomènes de, il y a un mec qui twerk dans une église Et tout de suite, on dit, c'est insultant pour l'église, il est homosexuel, est-ce que les homosexuels, nanana, est-ce que l'église... Nanana... et ça crée des clivages de deux choses qui sont nobles, tu vois. Lui, mec, il vit sa liberté sexuelle parce que c'est sa nature et on doit l'accepter comme ça.
Tu
et l'autre, il est religieux.
D'un prêtre, là,
les deux, franchement, les deux. Parce que parfois, les deux, la vanne facile. Mais en gros, tu vois, et ça crée énormément de vortex spatio-temporels où il n'y a aucune réponse au débat. Et t'es bloqué dans...
Mais parce que c'est pour ça. C'est...
Et t'es bloqué
vrai,
dedans.
C'est pas
c'est
un vrai débat.
En fait, c'est pas
fait,
un vrai débat.
Personne ne vient avec une vraie question fondamentale où il y a besoin de... Attends, comment tu vois ce sujet-là ?
Il y a plein de personnes qui viennent avec plein de questions et de préjugés inutiles et ça crée de l'audimat et ça crée de l'impact. Et du coup, on enflamme des épiphénomènes, on les enflamme, on en fait des phénomènes de société qui n'apportent absolument rien.
Et qui desservent.
Alors,
qui desservent.
Là, ouais, bah, moi, je vais vous le dire. Voilà, je suis rédacteur.
C'est vrai que ça commençait mal, ça commençait comme ça.
Je suis totalement homophobe.
T'approches un poil de nous, pardon. Ouais. Non, mais je suis rédacteur-chef de CNews.
Ouais.
Tu vois,
si
tu dis, genre, tu dis, ça n'apporte rien, etc. Qui c'est qui m'oblige à rapporter quelque chose à la nation française ? Moi, ce qui compte, c'est mes chiffres du dernier quadrimestre, en fait. Moi, si je vois que l'audimat, ça a augmenté, que j'ai niqué BFM parce qu'on a été un peu plus polarisant qu'eux, j'ai gagné, quoi. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a zéro motivation pour qui que ce soit d'être justement d'apporter quelque chose à un débat ou de faire plaisir. Enfin, comment dirais-je ?
Ouais, mais
c'est quoi ma responsabilité personnelle à la nation ?
De conscience sociale.
Mais qui aujourd'hui a une conscience sociale ? Genre, qui aujourd'hui. Non,
tous ceux qui n'ont pas le pouvoir de changer.
Voilà, déjà.
C'est ça. Moi, je pense que j'ai une conscience sociale et malheureusement, je n'apporterai rien. Et c'est d'ailleurs ce qui a petit à petit, malheureusement. Je dis malheureusement parce que même si bien heureusement j'ai fait des vidéos pendant le confinement qui ont été vues, qui ont été relayées et qui m'ont aidé à gagner en notoriété pendant qu'on était en manque d'activité sur les plateaux d'humour.
Ouais.
Et ça a été plus fort que moi et je me suis senti obligé de parler de choses qui, à la base, je ne voudrais pas qu'ils me définissent, tu vois. Ou qu'elles me définissent ces choses. Pardon, je corrige mon français. Mais je n'ai pas envie que ça me définisse. Par exemple, j'ai beaucoup parlé de politique parce que j'étais scandalisé, mais parce que je l'ai pointé du doigt de manière très légère et très sarcastique.
Ouais.
Et maintenant, les gens, par exemple, à la première de mon spectacle en janvier, c'était une exceptionnelle au point virgule. Je le précise parce que les gens disent il vient de commencer, il parle du janvier. Bref, c'est les gens qui me connaissent et qui suivent ton podcast assidûment.
Bien sûr.
Absolument pas.
J'aime bien que déjà, t'es en clash avec des gens qui n'ont pas encore parlé. C'était une exceptionnelle.
C'était une exceptionnelle, ok. Et il y a une personne qui est venue, qui a aimé la moitié du spectacle, qui m'a dit j'ai pas aimé l'autre moitié parce que ça parlait plus de politique, ça parlait plus de trucs, ça parlait...
Oui.
Et moi, je parlais pas de politique, c'est juste qu'au début du spectacle, je fais une partie sur l'actualité.
Parce que ça t'intéresse.
Exactement. Ouais. Après, je dévie sur des espèces, je pointe du doigt certaines choses qui m'énervent dans la société, donc ils se disent, c'est toujours cohérent. Puis au bout d'un moment, je commençais à parler de moi.
Ouais.
Les gens se disent, mais tu parles plus de Macron. Mais non,
ça.
Mais je peux pas cristalliser l'information dans un spectacle. Ouais. T'imagines combien de spectacles je dois écrire pour cristalliser l'information.
Ouais.
Et les gens ne le comprennent pas. Ils croient que à chaque fois qu'ils viennent me voir un spectacle, ils vont voir un spectacle différent. Et c'est là où tu te rends compte qu'on a encore tellement de chemin pour pouvoir en stand-up, éduquer les gens à ce qu'est vraiment le stand-up et c'est pas juste de l'impro et juste des trucs sur l'actualité.
Ouais.
Qu'aujourd'hui, pour faire la promotion de ton spectacle, tu vas balancer des choses que tu peux jeter
sur internet.
Si tu peux les jeter, tu vas pas écrire un truc super perspicace sur quand tu prends ton café le matin parce que tu sais que c'est intemporel et que si c'est intemporel, tu peux l'utiliser pendant longtemps sur les plateaux.
Ouais.
Mais tu vas jeter un truc sur la politique, sur l'actualité, sur des phénomènes de société et les gens se disent maintenant, je veux que lui, il me parle que de ça. Et s'il parle pas de ça, et ben je vais mettre une mauvaise critique sur Biréduc.
Mais tu vois, c'est typiquement moi entre guillemets un peu d'ailleurs le souci que j'ai avec ce podcast où je me dis ce podcast j'ai envie d'inviter les gens que j'ai envie d'inviter et que voilà aujourd'hui c'est deux humoristes mais demain c'est une microbiologiste parce que j'ai envie de parler de ça tu vois.
Mais après
en fait,
les gens
en fait le problème c'est que je le vois c'est à dire que moi j'ai mis plus de temps à rabattre des gens qui pourraient être intéressés par tous ces gens là que je peux recevoir Mais parce qu'il n'y a pas de concept, parce que je vous disais tout à l'heure, en fait, moi j'aime pas les...
Parce que là, ça a commencé par exemple.
Ça a commencé, on est en live depuis 6 heures à peu près.
Depuis le café.
Non, mais tu vois, j'ai pas envie d'être en mode... Encore une fois, j'ai pas envie de faire... Si c'est pour une émission télé, en fait, je vais faire une plaquette et je vais l'envoyer à une chaîne de télé, tu vois, ou un truc, une web...
Mais c'est intéressant, mais c'est noble ce que tu dis. Mais le problème, c'est qu'il y a des codes et des règles du jeu et que quand tu sors des codes, et encore une fois, c'est ce que je te disais comparativement aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas assez de monde en France pour pouvoir nourrir des espèces de micro-ambitions créatives comme...
Je sais pas si... Est-ce que c'est pas faux, ça? Parce que regarde, c'est pas vrai. États-Unis, parce que... Regarde, on a dit, ils sont 350 millions, ok? C'est 5 fois plus... Ok, c'est 6 fois plus qu'en France.
Ouais.
Mais ça veut dire que... Genre, tu vois, on va pas prendre les extrêmes des extrêmes, on va pas prendre Joe Rogan, mais même si tu prends les podcasts, les 10 premiers podcasts, mais indés, c'est-à-dire de comiques, qui font comme Joe Rogan, c'est-à-dire qu'ils invitent des gens, parfois qui sont humoristes, parfois qui sont pas humoristes, etc.
Sam Morril et...
Par exemple, ou Sam Morril et trucs, deux humoristes qui se parlent ensemble, etc. Il y a quand même des millions qui écoutent. Oui, tu vois, si tu fais que diviser par 6, il devrait quand même y avoir énormément de gens.
Oui, mais après...
En France, que ça intéresse.
Oui, mais le milieu francophone, par exemple, nous, on pourrait avoir des Québécois, des Belges, des Suisses et tout qui nous écoutent et tout. Le problème, c'est que c'est découpé de telle manière à ce que l'algorithme d'un pays concentre et met en avant les produits du pays et tout, alors que les États-Unis sont vraiment ouverts sur le monde. Et les États-Unis, c'est un peu le flambeau de l'humanité, même tu le vois entre la guerre russe Ukraine et que tu vois que les Américains, il y a encore une fois les gentils, les méchants, sans la considération de, mais on va pas faire de la géopolitique de toute façon,
c'est qui les gentils. C'est pas si évident que ça,
les méchants, c'est pas si évident que ça non plus, c'est oui, ça qui est drôle.
Mais justement, en fait, moi je suis d'accord, hein. C'est-à-dire que les Américains, depuis les années 50, ils dictent la culture pour tout le monde.
Exactement.
Et en fait, moi ça me va.
Oui, voilà.
Comment ça se fait que, vu qu'ils dictent la culture pour tout le monde, le podcast, par exemple, ou le stand-up, ça a du mal encore à se comprendre en France, tu vois?
Mais en France, ouais.
Parce que nous, on a une culture forte du théâtre. Moi, j'ai remarqué, après, c'est que mon analyse j'intellectualise certaines choses,
non, mais
c'est mon empirisme et tout. On est quand même un pays où le théâtre est très très fort. Et il y a eu tout ce qu'on a appris toujours à l'école, Molière, etc., etc. Et on connaît cette espèce de... On a tous en tête, on est tous allés voir un spectacle de théâtre où c'est justement très théâtral, très joué, etc., etc. Il y a eu le one-man show pendant longtemps. Et même, il y a certains stand-uppers qui disaient, je sais plus qui, mais je cite un inconnu, qui dit le one-man show, c'est quelqu'un qui parle fort et qui a des vannes pas très drôles. Et qui parle fort justement pour les rendre drôles, tu vois. C'est ce qu'il disait, mais c'est pas vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que, donc du coup, il y a une culture de l'humour en France qui était déjà assez forte, et plutôt que de développer quelque chose qui serait un stand-up qui nous ressemble beaucoup, je pense qu'on a ce défaut, d'importer une espèce d'image qu'on a du stand-up américain qu'on essaie de très mal refaire en France, plutôt que d'essayer de développer notre propre culture.
On singe, il faut qu'on arrête de singer surtout.
Ouais.
On singe beaucoup en France. On a amené le stand-up en singeant et ça fait un peu, c'est jouer du stand-up et si c'est juste prendre la parole librement sans tartiner comme sans les gestes et tout.
Tu remarqueras que ceux qui marchent, c'est ceux qui ont un clown très fort, une gestuelle très intéressante dans les act-out, etc. Et quand tu regardes bien les Américains, ils ont des act-out incroyables. Mais sauf qu'en France, on s'est très monocorde, très linéaire et Putain, j'ai mis du temps à essayer de sortir de ça. Parfois, je me surprends à être comme ça. Je me dis, bouge, tac, explique, joue-le ton truc. T'es là, t'es...
Mais c'est marrant, on en parlait hier avec Emma Defoucault. Parce qu'en fait, on se disait, nous, on a commencé à Toulouse, ok? Et en fait, on a commencé à Toulouse seul. C'est-à-dire qu'en gros, on était les seuls. On était genre 5, mais on se connaissait, c'est nous-mêmes qui avions créé la scène où jouait du stand-up et tout ça. Mais du coup, t'as zéro pression d'autres personnes. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu dis, chez nous, le MC, il passe entre tout le monde. Chez nous, si on veut faire un sketch à deux, entre guillemets, on le fait. Et en fait, du coup, c'est con, mais on s'est dit, putain, on a de la chance, en fait.
Vous avez créé vos propres codes, pardon, s'il vous
plaît. Disons qu'en tout cas, on était un peu plus libre.
Ouais.
Et que quand on est arrivé, là, on subit aussi. C'est-à-dire que maintenant qu'on est à Paris là, depuis 2-3 ans, c'est-à-dire qu'en fait, que tu le veuilles ou non, t'as la pression de, en fait, si tu vas à tous les plateaux, toutes les soirées d'humour. Il y a 6 autres personnes qui font quelque chose comme ça, mmh. avec une même cadence, avec une même musicalité du truc et tout. Que tu veuilles ou non, tu dis, c'est pas moi ça.
Ouais.
C'est pas moi ça. Et en fait, au bout de 3 soirées, tu commences un peu à faire ça, quoi.
Ouais.
Tu commences aussi à dire, moi aussi, il faut que j'ai 6 minutes et que je fasse nanana, nanana, tu ouais. vois. Et en fait, est-ce que ça, que tu le veuilles ou non, t'es perméable en fait. T'es perméable à ce qu'il y a autour de toi. Et c'est marrant parce que, après, on avait assez. Il y a plusieurs paramètres. Déjà, on est déjà trentenaire et on avait cette expérience de Toulouse pour quand même se rediriger à chaque fois. C'est-à-dire, tu te dis genre, oula, là, je suis en train de faire un truc qui n'est pas moi
ouais.
et je le fais parce que j'ai trop vu ça et j'ai trop été
en
train
de faire ça. Tu t'es déjà construit, toi.
Voilà, que du coup, tu peux au moins te dire, oula, je ne suis pas en train de faire ça et donc te recorriger, dire peut-être je fais d'autres choses, je fais d'autres plateaux où je vais jouer que mon heure ou mettre des demi-heures avec des gens que je connais. Et donc tu te... Mais quelqu'un qui naît dans ça, il a tout de suite des codes qui, encore une fois, sont des faux codes. C'est-à-dire que, comme tu dis, genre, on a voulu importer un truc et le plastiquer sur, effectivement, le théâtre. Et tu le vois avec le public. Le public, c'est comme des fous. Dès que tu commences à faire du jeu... Et d'ailleurs, j'étais là, putain, il y a 2 semaines, j'ai joué mon spectacle et c'était le pire public que j'ai... Genre, vraiment, je le haïssais. Genre, en fait, c'était des gens... C'est-à-dire que j'ai toute la vibe du public. J'ai réussi à avoir la conclusion de qui c'était à la fin du spectacle.
Okay. Tu l'auras dit.
Non, je l'aurais pas dit, mais franchement, allez tous vous faire foutre.
C'était quelle date que les gens se reconnaissent?
J'espère qu'ils t'écoutent, j'espère qu'ils disent « Mais j'étais là, moi, là !»
Putain, la pauvre, en plus, c'était Sophie Bergeau qui faisait ma middle party.
Ah oui, la fameuse.
Et
il y a une middle part.
Ouais,
fait n'importe quoi.
Moi, je fais pas de première partie, je m'arrête au bout de 40 minutes, et la première partie fait 6 minutes au bout de 40 minutes, et je finis mon truc.
Mais non,
en fait, c'est trop bien, que c'est vraiment trop drôle. Et les gens, ils sont trop heureux, bref.
Ouais, ça change.
Mais...
C'est ça qui m'intéresse.
Exactement. Et en fait, tu peux tester. Personne va te dire, genre, c'est la police du stand-up. Mettez-vous sur le bas-côté.
C'est ça.
Exactement.
Et moi, j'ai eu peur parce que quand tu me l'as proposé, je me dis, si je ne l'ai jamais vu, ça, de middle party, c'est que c'est peut-être une mauvaise idée
parce que
si personne ne le fait.
Oui, ouais.
Et en fait, non.
Et en fait, non, parce que, en plus, pour le coup, le premier. Parce que je voulais faire ça dès le début de mon spectacle, mais bon, il se trouve, les. Les 5 premières. Bon, je faisais déjà trop long, j'avais pris 0 aux premières parties, même tout court. Et à partir de janvier, je me suis dit, non, vas-y, maintenant tu le fais. Il y avait Cyril Yves qui avait fait la première. Et en fait, c'était pour le fun. Mais après, quand j'analyse les trucs, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est cool. Parce que déjà, le public est déjà chaud.
Ouais.
La première partie se prend pas le truc de, on n'est pas venu te voir, toi.
Ouais.
Ce qui est con, mais tu sais quoi, j'ai vu. Je suis allé voir un spectacle récemment à la Petite Loge aussi de Reda Saoui que j'aime beaucoup.
Ouais.
Et sa première partie, c'est son co-auteur que j'aime beaucoup aussi.
Ouais.
Mais il y a eu un truc en spectateur. Quand Léo est arrivé, j'étais là genre « Non, j'ai pas payé pour ça.
Ouais. »
Enfin, j'ai pas payé tout court, mais… mais genre, j'étais là « Non. » Et je me suis dit « Putain, ouais.
Ouais. »
C'est pas nul, en fait.
Ouais.
Alors que derrière… Le public est chaud, j'amène quelqu'un au début, bon, je laisse flotter, les gens ne savent pas, croient que c'est quelqu'un du public qui improvise, qui va venir improviser. En fait, non, je dis du bruit pour le nom de la personne, donc tout le monde est calme. Et en fait, je me dis, il n'y a que des bonus, en fait. Il n'y a que des bonus, ça refresh tout le monde pour mon dernier set de la fin qui fait 15 minutes, tu vois, et voilà, quoi.
Ouais, parce qu'en fait, la première partie, c'est faire reposer sur les épaules d'un mec
ouais,
le lancement d'une soirée.
Ouais,
et en même temps aussi, c'est dire, c'est pas grave si c'est pas bien, je le mets au début et après, je rattraperai la salle. Donc dans les deux cas, c'est vrai que c'est plus malin de l'avoir au milieu. Tout le monde gagne. C'est vraiment toi qui tu proposes quelqu'un que tu enveloppes autour de ton spectacle, donc tu dis que t'aimes bien.
Ouais, exactement.
Et voilà, et que t'intègres au truc. Et c'est pas genre, allez, après on commence.
C'est pas genre, vous avez une petite entrée là, mais si vous aimez pas les œufs mayo, c'est pas grave.
C'est ça, en général, c'est des chips que t'as acheté, c'est pas un truc que t'as préparé toi-même. Tu dis, je mets des cacahuètes en attendant le vrai plat, tu vois.
Bref, tout ça pour dire que je me sentais du coup trop mal avec ce public que j'étais en train de haïr parce qu'en gros, c'était des petits ricanements, mais jamais de rire. J'étais là, genre, c'est bizarre. C'est bizarre.
Est-ce que t'as filmé?
J'ai filmé. C'est quoi? Non, c'est le seul que j'ai pas filmé, mais j'ai enregistré juste l'audio.
Alors, je vais te donner une anecdote qui m'est arrivée il y a pas longtemps. Je fais un. Je fais un passage dans un plateau d'humour. Je filme parce que je filmais justement pour avoir du matos et tout. Et je ressors et un humoriste qui me dit comment c'est passé. Je dis franchement, c'était pas ma meilleure. J'ai l'impression que c'est pas bien. Je re-regarde la vidéo pour voir le matériel que j'avais testé, etc. Ouais. Et en fait, j'entends les rires, je vois ma prestation et je l'analyse. Et ma perception sur scène est totalement différente de ce que je vois en salle. Ouais. Et quand je regarde, je me dis, mais j'ai pas bafouillé. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir autant bafouillé? Mais non, j'ai pas. Et à un moment donné, je pensais avoir mal juxtaposé une transition. Mais en fait, elle était bien faite. C'est juste que dans ma tête, et parfois même, ça m'arrive d'avoir eu l'impression d'avoir dit quelque chose. Mais c'était juste une idée qui avait traversé ma tête.
Et c'est jamais sorti.
Et c'est jamais sorti. Et donc, en fait, c'est pour ça que c'est important de se re-regarder. Parce que parfois, ta perception, elle est biaisée. Là. Et pour être très honnête, mon spectacle, j'ai joué mon spectacle là dimanche. Il y avait en comparaison l'autre, donc qui était, j'avais l'impression qu'il était meilleur, etc. Je joue, etc. Et j'ai l'impression d'avoir eu une bonne soirée, mais pas excellente. Je re-regarde la vidéo. Je me dis, mais on n'a pas vécu la même soirée. J'entends des gros rires, des applaudissements et tout, qui ne sont jamais parvenus dans mon esprit. Moi, j'étais en automatisme.
Et alors, écoute, je me suis pas, réécouté celle-là, en tout cas pour l'instant. Surtout que, bref,
la semaine,
oui, j'ai l'audio. Je pourrais la réécouter après. Ouais. Mais non, mais pour te dire, en fait, bon, il y a plusieurs choses qui paramètrent. En fait, c'est un pote qui est assez connu, qui a fait une story parce que voilà, il avait vu mon spectacle, c'était drôle, il a fait genre, allez voir un truc. Du coup, la session d'après, elle a été remplie, complète, par du coup les gens, parce qu'en plus c'était vacances scolaires du coup il y a 2 semaines.
Bref. Donc quelqu'un qui n'a pas le même humour que toi.
Si, vu qu'il a rigolé à mon spectacle, mais c'est pas les gens qui le suivent, c'est pas forcément, je dirais pas ma démographie. Mais
est-ce que t'as une démographie ?
peut-être qu'ils s'attendent à autre chose, tu vois. Et en l'occurrence, je te le dis maintenant a posteriori, je pense qu'il s'attendait à du théâtre.
Ah ouais.
À un seul en scène avec moi qui faisait des voix, etc. C'est Baptiste Beaulieu, c'est un pote qui est médecin, donc on a fait notre première année de médecine ensemble, et qui est romancier en fait.
Oui.
Et qui fait des chroniques sur France Inter ou des trucs comme ça.
Et, et qui s'attendait, donc les gens.
Et je pense que les gens s'attendaient à du théâtre. Pourquoi ? Parce qu'en plus, en vrai, lui, son premier bouquin, en plus, il a été adapté en pièce de théâtre qui est très, très théâtre. En plus, j'ai adoré, hein, mais c'est du théâtre, quoi. Voilà. C'est genre, du coup, le comédien qui est comme ça, qui à un moment, il va jouer du piano et à un moment, il va faire des trucs, etc.
Intellectuellement, quoi.
Et non, parce que pour le coup, en plus, moi, mes vannes, c'est plutôt
on va dire c'est cérébral.
C'est cérébral, c'est jamais bien. Il y a zéro rire, mais c'est cérébral.
Non, mais c'est drôle, mais bien évidemment, mais t'as compris.
Mais du coup, mais en fait, déjà, ça n'applaudit pas pendant le noir avant que le rideau s'ouvre.
Ah là là, il est dur celui-là en plus à la petite loge. Hein.
Ouais. Non mais là, imagine, c'est complet. Ça n'applaudit pas. J'ai un pote dans la salle, il me dit qu'il devait venir. J'ai un pote et j'entends son applaudissement. Il était comme ça, genre.
Aïe.
Tu sais, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu, mais je sais que lui, il a tenté, il a fait genre. Non, genre un peu. Bah, il était seul. Seul avec que de gens. Et en fait, genre après. Ok. Mais. Et en fait. Je vois que, je sais pas, soit il s'attendait aux trois.
S'il a applaudi comme ça, ton pote, il a fait les trois coups.
Aux trois coups, etc. Mais c'est surtout, pendant toute mon heure, les gars n'ont rigolé que dès que je faisais un act-out. Dès que je faisais un personnage, dès que je faisais un peu le gogol. Alors là, oui. Parce que là, on reconnaît le code de vous êtes un clown sur scène, en fait.
Oui.
Et pour moi, c'était clairement les signes. En gros, j'avais plusieurs vibes de choses comme ça qui sont passées où je me suis dit, ah ok, en fait, c'est juste que vous n'avez pas les codes du stand-up. Et en fait, c'est ça que d'ailleurs, j'aime pas.
Après, il y a des codes du stand-up que tu connais, qu'on connaît, qui est un truc classique que même des producteurs te disent, qu'on n'aura pas besoin de citer, mais. C'est prémices, décalage, act-out systématiquement. Alors systématiquement, oui et non, mais ce que je veux dire, c'est que l'act-out est considéré comme, soi-disant dans le stand-up, chez les puristes, comme étant un élément de base, en fait, au stand-up. Donc, bon.
Mais en fait, c'est ça aussi.
C'est théâtral, quoi. En vrai, le stand-up, c'est théâtral.
Bah, si tu rajoutes du théâtral, ton stand-up sera meilleur.
Il y a quelqu'un qui m'a dit ça.
De toute façon.
Une personne qui est, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un stand-upper qui commence à marcher, il s'appelle Haroun. Il m'avait dit, je me rappelle à l'époque où j'avais ouvert mon premier comedy club, les stand-uppers, les jeunes stand-uppers oublient la théâtralisation du stand-up.
Ouais. Oui, non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux, ça fait partie de. Et je suis d'accord. Hein, moi, je. Mais d'ailleurs, même moi, je kiffe de ouf quand je fais des act-out, bah, oui, etc., oui. etc. Cependant, virgule. Quand.
Pendant que je mange une clémentine, virgule.
Quand le public. En fait, j'ai senti qu'ils étaient perdus. Et j'ai senti qu'ils étaient perdus, genre. Ça a commencé, en fait. Ils nous parlent, en fait. Tu vois ce que je. Qu'est-ce qui se passe?
Le
genre, ah oui, voilà, le code de... Alors, moi, ça m'a fait particulièrement chier parce que je peux être spectateur et de stand-up
ouais.
et de théâtre. Et que même si je ne sais pas ce que tu m'emmènes voir, dans les 10 premières secondes de ce qui se passe, j'accepte tout ce qui se passe.
Oui, oui, oui.
Je me dis, ah, ok, c'est ça que tu vas faire.
C'est une éducation.
C'est ça que tu vas faire, je le prends, je suis ouvert. Voyons voir comment tu le fais, toi. Est-ce que tu arrives à m'emmener dans le truc, etc., etc. Et là, il y a eu un côté de non, 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 ce n'est pas les codes de ce qu'on connaît en fait. Après, ça se trouve, je vous raconte tout ça, mais en fait, j'ai juste bidé tout
exactement
court.
Ce que j'allais dire. J'allais dire, est-ce que si on est honnête et qu'on parle pour un mec qui ne te connaît pas, qui se dit ouais, mais ça se trouve, frère, t'es juste.
Non, mais en vrai, je pense que. Je vais te dire, en fait, ce qui s'est passé, c'est que probablement ça n'a pas aidé. C'est-à-dire qu'en fait, les 15 premières minutes, quand j'ai vu comment
mais
ils
oui,
étaient. Mais
oui, je sais très bien, bah, t'as pas
tu
envie
dis, genre,
moins
t'as pas envie, mais
tout.
Après, j'ai quand même. Délivré de ouf le boulot quoi.
Ouais,
dans le sens où en vrai bon pour le coup je vais plus faire confiance à la stand-upeuse Sophie et à Melissa à la régie tu vois qui me dit non non en fait il y a un moment ça s'est vu qu'à un moment tu t'es dit rien à foutre
ah ouais.
J'y vais quand
droit.
Même
moi j'appelle ça un tout droit moi vraiment j'appelle ça
mais,
un tout droit
attention tu... pas en mode tout droit mais genre en mode quand même je vais faire, c'est-à-dire je vais pas juste en
ouais,
à la course.
T'expédies pas, tu
j'expédie
fais le
pas, mais genre ouais, c'est-à-dire qu'en fait je me dis c'est comme si je faisais une répète devant deux personnes quoi. Mm. Je le fais quand même. Enfin c'est-à-dire je.
Mais ils ont peut-être
si tu moi me faire une répète devant deux personnes,
non,
tu t'es dit
une vraie...
de pute, ouais. J'ai payé pour
ouais,
lui quoi.
C'est difficile, mais non mais une vraie répète dans le sens où genre tu y vas et tu joues tout ce qu'il y a à jouer quand
ouais.
même, tu vois.
Je suis pas une italienne. Justement.
Ouais, oui, c'est pas une italienne, une répète. Mais bon bref. À la fin, etc., il se passe tout ça. Effectivement, je ne vais pas te mentir. C'est sûr que s'il y avait 10 personnes qui avaient, eux, par contre, les codes du stand-up dans la salle, bah oui, ça, l'ambiance, ça fait que c'était quand même niqué, tu vois.
Oui.
Mais,
oui.
Mais après, je ne sais pas. Après, ça,
parfois,
c'est
on
ne
rencontre pas.
La mauvaise.
Pas,
oui, c'est ça. C'est ça. Juste la mauvaise.
Et des fois, une fois encore, il n'y a pas de rire. Surtout si c'est des... En fonction du public, il n'y a pas de rire, mais les gens ont quand même... ouais justement ils ont rigolé quand c'était ouvertement c'est une blague je fais le gogol mais ils ont rigolé intérieurement à tout ce qui était stand-up
je sais
ils
pas,
savent pas
y
qu'il
y
faut
avait les masques,
le, non, leur, ils ont pas le muscle pour s'exclaffer de,
oui,
quelqu'un, alors, de quelqu'un qui fait du stand-up mais dès que c'est il y a
existe.
Un petit pouet à la fin de ta phrase non mais j'exagère ça, tu vois et eux ils, c'est le truc où il y a marqué là c'est pour on rigole
oui, oui, oui.
Riez
là,
fort
vous avez
le droit
rire, ouais, ouais.
J'ai fait des traits d'esprit qui vous ont plu mais là c'est drôle en plus
ça mais celle d'après où à mon avis j'ai bénéficié aussi pareil du même remplissage de
ouais mais pas
de
tout
mon,
sur
de,
lui
de mon pote non 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 mais celle d'après elle était c'était trop trop bien quoi tu
oui
vois
mais en fait
mais
c'est pas,
j'ai
ça
adressé
peut pas...
aussi le fait que ah, peut-être que vous venez because vous aviez vu cette story
oui
et j'ai adressé le truc j'ai dit par contre je vous dis tout de suite c'est pas tu vois
ça peut traumatiser ça peut pas être toujours de la faute de l'humoriste selon moi ça peut pas tout le temps ça peut il y a des soirs où tu rencontres pas ton public
ouais c'est ça bah ouais.
Et même si t'as l'énergie même si le lendemain on envoie hein, des panames tu fais 3 jours de suite c'est rempli de la même manière et il y a un soir où tout le monde va bider
ouais, ouais, ouais.
Sans exception
oui oui c'est ça
donc c'est la vie c'est comme ça
après je dois souligner c'était le jour de la guerre Ukraine-Russie en fait.
Et c'est vrai que ça nous touche beaucoup ça
non non mais je trouvais pas qu'il y avait une vibe zarb franchement on était
j'ai tout de suite fait des vannes moi
à 17 oui nous on était prêts à faire des vannes mais le public je sais pas s'il était prêt à les écouter en fait
ouais, oui parce qu'ils avaient déjà réservé depuis longtemps et puis peut y avoir des gens qui aiment ton humour mais ils réservent une semaine à l'avance et puis le jour où ils y vont bah c'est une mauvaise journée donc non en fait c'est que
c'est
des gens
vrai,
qui ont passé une mauvaise journée
c'est vrai c'est
non
vrai.
Parce que attends parce que du coup j'espère que je sonne pas comme un connard mais genre je suis le premier
non, je pense
à
pas.
m'en vouloir dès que ça va même que moyennement
ouais.
Sur une scène c'est je me fouette pendant 10 jours après donc c'est
10
beaucoup.
Jours c'est
10
beaucoup
jours.
Deux moi
donc,
je m'arrête
parfois,
à deux
j'ai des doubles fouettages en même temps.
Ah oui.
C'est que
tu
dois
des amis
ça,
qui sont là pour te dire oui mais le public.
Oui,
c'est,
oui,
c'est
voilà,
à toi,
c'est
toi tu dois rien dire.
Et
toi.
Là justement pour le coup, je me suis autorisé le fait de dire non, là, c'est le public.
Mais oui, mais c'est une manière aussi de te protéger, de te sauver. Est-ce que sinon, si tu commences à t'auto-flageller sur un
tout
truc comme
temps,
ça, ouais, c'est pas...
Ouais, c'est un équilibre qu'il faut avoir pour
ouais, ouais.
quand même s'en sortir vivant.
On est très lâches, les humoristes, pour continuer à faire ce métier quand on est très très nul avant de devenir très très bon. C'est qu'il y a beaucoup de fois où on se ment à soi-même. Il y a beaucoup de fois où on se dit ah, c'était le public. Ah non, bah ouais. Regarde l'enregistrement. T'étais claqué. Il y a un mec qui est passé avant, une meuf qui est passée après. Ils ont tout niqué et toi, t'étais juste nul, frère. C'est vraiment. Et j'en vois des humoristes qui me disent mais tellement de mauvaise foi. J'en ai entendu beaucoup en ce moment. C'est. Ils font un mauvais passage, ils sont premier ou deuxième ou truc comme ça, et toi tu vas bien marcher à la fin et ils vont dire t'as vu le public il était comme ça ouais, au début oui. Et après vers la fin c'est à la fin que j'aurais dû passer. Non, c'est, non ouais. C'est à la fin, ça aurait été pareil. C'est nul. Mais bon, c'est notre vie, c'est celle qu'on a choisie.
Ouais. Ouais. Mais alors,
ça m'est un peu tombé dessus, mais.
Ça ouais. t'est tombé non, dessus toi.
Alors, tu sais.
Ils m'ont appelé. Ça m'a
ouais, ils m'ont appelé. Un jour. On veut te voir en fait.
En vrai, moi je suis arrivé vraiment par hasard. Hein.
Qu'est-ce que tu faisais avant toi?
Ouais, c'est aussi
qu'est-ce
des connaissances.
Qu'est-ce que je faisais avant? D'où tu viens? Moi, j'étais consultant, j'étais chasseur de tête avant de.
Ah ouais.
Ouais, avant de faire ça. Et
ça, c'est intéressant.
Ouais, tu trouves?
Bah, en fait, c'est intéressant. En fait, moi, je vois tout de suite si t'es un peu dans les ressources humaines, quoi, du coup. Un peu, non,
c'était, ouais, c'était
tête.
Commercial dans les ressources humaines, en fait.
Oh. Ah non, ok. Mais tu vendais quoi?
Tu vends des humains.
Ouais, ok, ouais, c'est ça.
Ça s'appelle ouais. l'esclavagiste,
coup,
ouais.
C'est exactement ça.
Du coup, d'accord. Tu vois, très souvent, enfin, moi, tu me diras théâtre, stand-up, etc. Donc, déjà, communication, tu vois. T'es dans le game déjà de
ouais,
vendre quelque chose. Et en plus, de peut-être d'avoir la perception de ton public, tu vois. Je dirais qu'il y a des compétences. Intéressante ouais, dans VRP et spécialement aux sciences humaines.
T'apprends des codes comme ouais. Les 3x20, les trucs, les PDM, ce qu'on appelle les PDM, c'est les poignées de main. Comment la poignée de main,
ah ouais.
Elle peut être, oui, plus ou moins, d'une certaine manière, comment tu peux voir quelqu'un qui a de la conviction, qui est mou, qui est trop ferme, qui est juste sur la poignée de main.
Ouais.
C'est des
ouais.
trucs, c'est des règles commerciales. Bon,
et du coup, tu adaptes ton discours par rapport à déjà les petits signes, c'est ça que tu veux dire?
En fait, après, c'est souvent des grilles, c'est du bon sens, tu as des grilles, tu poses des questions, tu regardes la cohérence du mec, tu essayes de voir s'il est concis, s'il est... C'est vraiment du détail qui paraît lambda, mais par exemple, quand tu lui dis « parlez-moi de votre parcours », ouais. À partir de là, s'il est trop expansif, s'il rentre trop dans les détails, ou s'il n'en dit pas assez, ou s'il y a une période de creux qu'il bégaye et tu vois qu'il a un coup de shoot. C'était de l'analyse, grosso modo.
Oui, ouais.
En vrai, tu dois vendre des gens, et même s'il est nul, si tu penses que tu peux le jouer, c'est comme ça qu'ils disent.
Ah,
tu
le
peux
le
jouer,
ah là là,
exactement.
Ouais.
Tu le joues parce que
c'est
voilà.
C'est toi qui as vendu Macron, finalement.
J'aurais tellement voulu. Et avant ça, j'ai travaillé dans une banque de financement. Je faisais de la communication monde, j'étais à la holding, etc. Et c'est toujours un truc qui m'avait fasciné, la pub et tout avant.
C'était dans le monde des méchants, un peu quand même. Hein.
Et j'ai décidé d'en partir. En fait, j'étais dans le monde des méchants parce que j'avais un besoin d'accomplissement social dans le fait d'avoir des diplômes et de réussir à faire ce que tous les... En fait, ça va être très bizarre ce que je vais dire parce que je m'appelle Richard, etc. etc. mais je viens d'une famille d'immigrés, réfugiés politiques et tout. Et toute ma vie, je me suis appliqué à vouloir être blanc.
Ouais, ouais.
Bah pas te mentir. Hein. Les mecs avaient des Polo Ralph Lauren qui étaient dans des écoles catholiques, etc. Je voulais être eux, je voulais faire les mêmes études qu'eux parce que je voulais me prouver que mon cerveau fonctionnait aussi bien que le leur.
Bah, et puis c'est une fois que c'est eux qui ont le pouvoir, quoi.
Exactement. Ouais. Entre guillemets, c'est... ouais. En tout cas, ils ont le pouvoir.
En tout cas, tu sais, tu perçois qui commande qui quoi.
Non, mais en fait, en vrai, ils ont le pouvoir sans avoir le pouvoir. C'est une phrase, j'en discutais avec un pote il y a pas longtemps. Quand tu demandes à 50 Cent comment il fait pour faire des placements et gagner beaucoup d'oseille, il te répond ce que d'autres millionnaires te répondent. Il dit j'ai pas fait Harvard, mais j'emploie des gens qui font Harvard. Donc ouais. Finalement, les gens qui ont des diplômes servent des gens qui sont un tout petit peu plus malins qu'eux, là où ils pensent être malins, et en fait ils sont juste les pions de personnes qui utilisent leur intelligence. Avoir un cerveau d'éléphant mais l'abnégation d'une huître, tu vois ce que je veux dire ou pas?
Ouais. Donc, ouais. Après, j'aurais tendance à dire que tu vois, la plupart des gens qui font Harvard sont les gens qui signent les chèques de 50 Cent.
Ouais, voilà. On s'est compris
quand
je dis ça.
Mais je vois ce que tu veux dire. Mais alors, à quel moment tu t'es dit « Bon, j'ai validé la société normale, en fait. »
Dès que j'étais diplômé. J'ai validé. Diplômé, J'ai été débauché alors que je devais continuer faire
un master. Ah, parce que tu commençais à bosser, etc. Pardon.
Ouais, exactement. Oh, okay, exactement. J'ai fait master. J'ai été après, on m'a appelé pour un master space. Bon, j'ai commencé à. Bref, j'ai passé des concours. Tout était bon, tout était bien, etc. Et en fait, dès le moment où j'ai compris que je pouvais et que j'avais cette crédibilité, quand tu as un bac et que tu fais un master, tu as des grandes écoles de commerce, etc. Une fois que j'ai tout validé, je me suis dit, pas maintenant. Et pour être très honnête, ça m'arrive à 27 ans. Je me suis dit, il y a plein de rockstars qui meurent à 27 ans.
Ouais, ouais, on y pense tous un peu.
Exactement. Et moi, c'est le moment où je vais revivre, en fait. Parce que j'ai toujours voulu faire de l'humour, mais je n'y croyais pas. Ah. J'ai toujours voulu être acteur depuis le collège. J'ai toujours fait de la scène, etc. Blablabla. Et un jour, je me suis dit, peut-être c'est possible, par l'intermédiaire de Jonathan O'Donnell. Parce qu'on était dans le même lycée. Et je l'ai vu faire. Je l'ai vu faire de la radio. J'ai dit, bah, ça a l'air possible. Puisque quand tu as un humain que tu connais qui le fait et qui te montre la route, tu te dis, bah, je suis allé le voir au Paname, curieusement. Après, je me suis dit, je suis allé voir un Labo du Rire après. Et je suis allé le voir lui. Après, je suis allé voir un Labo du Rire parce qu'on m'a dit, c'est par le Labo du Rire que tu vois. J'ai vu un Labo du Rire en toute humilité. J'ai vu des mecs monter qui étaient nuls. Je me suis dit,
je peux faire ça.
Ouais, ouais. Bah, je peux faire ça.
C'est pas bien dire ça, mais on le fait.
La vérité, c'est ça. Et je l'ai fait et j'ai invité tous mes potes pour la première et pour qu'ils me fassent un débrief après, pour qu'ils me disent honnêtement si oui ou non je fais pour ça.
Okay.
Ma première a été bonne. Donc. Ils sont sortis, ils m'ont dit franchement, on a l'impression que t'avais toujours fait ça et que tous les autres à côté étaient nuls.
Ouais.
Je me suis dit, bon, et bon, après, moi j'ai la vidéo de la première. Aujourd'hui, je me dis, ils y connaissaient rien en stand-up. Mais. Et ça m'a conforté dans l'idée. Et je dis souvent cette phrase, hein, c'est une phrase idiomatique que j'utilise, c'est que je suis arrivé par hasard, je suis resté par amour. C'est joli.
Oh, c'est beau.
Mais c'est pompé, c'est pas de moi. C'est, pas... c'est ma grand-mère qui disait ça. Je ne sais pas si vous avez la référence. Mais...
De ta grand-mère ?
Non, il y a eu, une espèce de bad buzz que je trouve pas du tout justifié autour de Gad Elmaleh parce que sa grand-mère lui faisait une citation de Groucho Marx. Et en fait, la citation de Groucho Marx et Twitter, ils l'ont tué.
Voilà, c'est vrai.
Twitter, ils l'ont tué. Ouais. Je trouve que c'était un peu injustifié. Tu vois. Autant quand c'est justifié, tu le fais, mais quand c'est injustifié, c'est bon, les gars. Sa grand-mère, elle peut citer Groucho Marx sans avoir à dire que c'est Groucho Marx. Tu vois, par la citation que j'ai faite, il n'y a absolument pas qui l'a faite. Mais elle existe, tu vois. Bon, voilà.
En tout cas, le plagiat, c'était de famille, c'est ça le truc.
C'est un peu les bâtards. Ils se sont dit, ouais, il arrive à mettre même sa grand-mère dans la sauce.
Ouais, de toute façon, lui, on lui pardonnera plus rien maintenant. Il a intérêt à tout ce qui
Mais je sais pas, là il a
je
fait.
Je sais pas, moi je comprends son amour du stand-up. Je comprends par où il est passé. Je comprends qu'on puisse dire que c'est pas grave.
C'est les gens. Hein. Moi, les gens.
Je pense que les humoristes sont beaucoup plus. Ils l'ont beaucoup plus condamné que le peuple. Le peuple l'aime, peu importe. J'ai vu des gens qui le défendaient de manière...
Ouais.
Et puis les gens aujourd'hui s'en battent les couilles. Je pense que ça l'a plus affecté lui et que malheureusement, ça a changé sa manière de faire du stand-up, de voir les choses et tout. Là où il aurait dû essayer de... Si tu ne l'assumes pas, continue comme tu étais avant. Maintenant, on sent que... J'ai l'impression, mais je le connais. J'ai beaucoup de potes qui le connaissent. On connaît tous des potes qui le connaissent très bien. Mais j'ai l'impression que ça a changé un peu... Mais bon, après, c'est pas ma guerre, tu vois.
C'est pas ma guerre.
Oui, puis surtout, je veux dire, si je dois choisir une guerre, je vais essayer de ne pas défendre un millionnaire pour l'instant.
Enfin, ouais.
C'est pas grave. Ouais. Moi, ça va. Écoute, il va bien, tout va bien.
Il va bien, ouais. Tout va bien. Il continue à faire du stand-up. C'est bon, on s'en bat les couilles. Copie comique, s'il l'écoute, j'aimerais lui passer un petit message. On l'entend moins, ta grande gueule. Non, mais à un moment donné, t'avais trois mecs à dénoncer. T'es venu, t'as fait tout ce bazar pour trois mecs. Ils étaient pas justifiés. Franchement, ça serait bien si c'était un risque.
Ouais, ça serait trop drôle que ce soit. Je trouve qu'il y a un petit peu de sueur sur le front depuis tellement.
Ça serait tellement drôle. Non, mais en plus, à ce qui paraît, il y a des gens qui savent qui c'est et tout. Et que tout le monde sait, mais que. Enfin, en tout cas.
Ça nous a fait un petit feuilleton un été maintenant, on s'en bat les couilles.
Tout le monde s'en bat vraiment les couilles. Il y a que vraiment les stand-uppers pour qui, tu sais,
parce que ça a de l'importance, ça leur donne une légitimité dans leur frustration. Exactement. De dire ah si j'ai passé percé, c'est parce qu'il y a encore des gens malhonnêtes qui volent des vannes. Non c'est frère, ça. T'as pas percé. Lui il a quand même le talent d'être Gad Elmaleh.
Non mais parce que même si genre t'es intéressé par l'intégrité de non c'est quand même du vol de propriété intellectuelle etc. Ce que je comprends et en vrai je suis d'accord. Hein. Moi il y a vraiment un truc d'injustice de j'imagine le gars corse j'en sais rien. Tu sais, qui perce pas et qu'en plus on lui vole des trucs, ça doit être un peu horrible, etc. etc.
Mais il avait qu'une bonne idée, le mec, il était drôle que sur une vanne.
Mais je sais, après, je sais pas, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, Nous, on a cru que c'était mondial parce que c'était dans le Parisien, quoi.
Ouais.
Et en vrai, les gens, ils s'en battent les couilles. Genre, tu vois, ça passe dans Envoyé spécial pendant 5 minutes.
Ouais.
Genre, j'étais dedans, d'ailleurs. Tous les... c'est vrai ?
Ouais, mais... je leur ai dit de pas me filmer. Ils m'ont filmé au moment où j'ai donné le micro à Momoran. Je leur ai dit, vous me filmez pas. J'ai donné le micro. Tout le monde m'a attaqué le lendemain en me disant, Richard, t'es copie comique. Le Paname et tout, un doute. Et je mets un message sur Facebook en disant, et ma chaîne YouTube avant battait son plein.
Ouais.
J'ai dit, s'il y en a encore un qui dit que je suis copie comique, je prends son sketch, je le vole en entièreté, je le filme et je le mets sur ma chaîne YouTube. C'est tout l'inverse de ce que ferait copie comique, tu vois. Ouais. Du coup, il n'y a plus personne qui va casser les couilles.
Tu te défends par la.
Bah oui, par l'attaque, dire, quoi. Bah vas-y, va voir copie comique et dis-lui, il a volé mon sketch. Comment tu fais à ce moment-là?
Mais non, mais après, je.
Ça serait énorme que ce soit toi, là, c'est une belle performance d'acteur, que ce soit toi copie comique.
J'aurais été
mal. Que là, tu l'insultes à la caméra et tout.
Il fait semblant, c'est le Riddler. En fait.
T'imagines, ça va persister dans le... Non, moi, j'ai deux citations à faire pour que les gens comprennent à quel point c'est grave et c'est pas grave de voler. Il y a cette citation de Gabriel Chanel qui disait « Voler mes idées, j'en aurai d'autres ».
Ouais.
Donc, à ce moment-là, n'aie pas peur de te renouveler, même
si
c'est un jeu.
Confiance en toi.
Ouais. Et Picasso qui disait « Les gens qui ont du talent créent et ceux qui ont du génie volent ». Et à ce moment-là, tu te dis, c'est un truc de fils de pute, mais ça existe depuis très longtemps.
Ouais, mais après, Picasso, c'était vraiment un gros fils
de
pute.
Fils de Gilles et tout.
Ah ouais, genre,
ouais. Ouais, mais il a été riche pendant son vécu. Il a réussi à mettre une douille.
Vraiment fils
on
de
en avait parlé
à
déjà.
Sa propre famille, ouais, c'est avec
toi
qu'on en
avait parlé.
C'était un gars, il a fait exprès d'être vague au niveau de son testament
pour
que sa famille se déchire pendant des dizaines d'années.
C'est la perversion, c'est pas sympa.
C'est souvent les méchants qui gagnent dans la vraie vie. Et c'est pour ça que je trouve que dans les Marvel, on devrait souvent faire gagner les méchants.
Ben oui, mais non, mais j'ai ça justement dans mon spectacle pour parler du fait que moi, je suis pour les méchants. Mais non, mais les méchants dans les Marvel, c'est pas ça parce qu'eux, ils ont un plan.
Tu vois ce que je veux dire? Alors que les gentils, ils ont juste
gentils,
le plan de faire en sorte que tout reste
exactement,
comme ça.
Exactement. Ils se battent pour le status quo.
Ouais.
En fait, c'est la police, en fait.
C'est ça.
Tu vois, c'est les gars, ils
au service faire, au service on de l'État rien. Qui n'est pas forcément, mais ils te font croire que le monde est idyllique, que tout ce qui se passe en dehors du Daily Planet, c'est tout va bien.
Bien
tout
mérité, ouais.
Mais en fait, voilà, bon, on est d'accord sur ça.
Vous êtes tous très Thanos, alors très bien.
Ouais, non mais oui.
Mais oui.
Bah
oui.
Si tu regardes Naruto aussi, je suis très l'Akatsuki aussi. Parce qu'en fait, ils se disent, vous êtes tous des pourris, etc. On va tout raser et tout recommencer.
Mais,
à zéro.
Oui, non, mais en fait, c'est toujours les méchants qui ont une perspective intéressante.
Et beaucoup de charisme.
Et beaucoup de charisme, il en faut pour qu'on ait fait un film.
Pour diriger
des
hommes
sur toi.
Ouais, bien sûr.
Parce qu'en vrai, il y a plein de méchants dans le monde réel. Juste, ils finissent en HP. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont là, ils ont peut-être des plans incroyables, mais ils n'ont pas le charisme qui fait que le flic, finalement, genre, il lui met pas une flashball et il devient un garde du corps de
bah,
ce méchant.
Les
tu
méchants,
vois.
Je les vois beaucoup plus haut que ça, moi. Les méchants, je les vois Bolloré, Arnaud, Zuckerberg.
Ah ouais, non, mais là tu parles
les
de
reptiliens.
Genre... Et en fait, ont-ils vraiment un plan plus que juste s'enrichir?
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas.
Tu vois ce que je veux dire?
Et en plus, c'est pas s'enrichir, c'est gagner de plus en plus de pouvoir pour pouvoir avoir la possibilité de modeler le monde à leur sauce.
Mais en
c'est
fait,
pour
c'est
garder
quand
un statu quo.
Ils arrivent à modeler le monde en fait. Parce que moi, je vois le truc que
Facebook,
tu dis.
Facebook, ça a modelé de ouf.
Non, non, non. Facebook,
Amazon,
ça. Non, non, non.
Elon Musk, tout ce qu'ils ont fait,
que,
ça mode d'une
que
certaine
leur
manière.
Outil ait modelé le monde, oui. Mais que eux. À la base, ils se soient dit « je vais modeler le monde comme ça ». Ça, j'y crois
pas. Non, j'y crois pas. Par contre, qu'ils aient la possibilité de pouvoir, d'une certaine manière, mettre… Quand tu vois que Elon Musk, il suffit qu'il fasse un tweet sur le Dogecoin pour qu'il s'enflamme, tu te dis « bon, bah, c'est intéressant, bah, fais des trucs ».
Mais c'est du troll, tu vois, pour moi.
C'est du troll. Mais c'est du troll de milliardaire.
Rigole
entre 4 milliardaires.
Entre 4 milliardaires, je tweete un mauvais truc sur le Dogecoin, il y a 4 gars qui perdent leur maison. Tu vois, 400 000 gars qui perdent leur maison.
Là, ce que je veux dire, c'est qu'ils pourraient avoir… Moi, je dis que je croirais vraiment de manière catastrophique à l'effondrement écologique, etc., etc. Le jour où les milliardaires mettront toute leur énergie et tout leur argent à essayer de faire en sorte de préserver la planète. Je me dis que s'ils ne le font pas, ou d'une part ils sont méchants, ou d'une autre part ils se disent on est encore large, c'est les prochains milliardaires qui prendront ce combat.
Après, je vais te dire ce que je dis en vrai aussi toujours dans mon spectacle, c'est qu'ils ont tous construit une fusée.
Ouais.
Donc après,
ils sont pas dans les...
c'est drôle.
C'est vrai.
Je veux dire que peut-être qu'ils modèlent rien du tout, mais ils sont là genre, oui, dès que la montée des eaux est un peu là.
Bah oui, c'est vrai, c'est vrai.
Mais non, mais parce que moi, et c'est pour ça que je peux pas m'empêcher de bien aimer la Chine, c'est que par contre, moi, je vois les gars qui ont décidé de choses à l'avance et qui emploient les moyens pour faire ce qu'ils ont décidé. Versus des gens comme effectivement Zuckerberg ou quoi, genre, ils créent un truc, c'est juste pour gagner de l'argent,
oui.
Et ça change la société, oui, mais genre en mode, on sait pas, on en prévoyait pas ça, quoi.
Oui, mais pas, après, tu n'es pas conscient.
Il en était pas conscient au début, et puis après, dès qu'il a compris les enjeux sociopolitiques de son outil, il va censurer dans tel pays, il va mettre en avant dans tel pays, il va booster l'algorithme dans tel pays, etc., etc. Et ils choisissent leur... Moi, je me suis fait shadowban pour des vidéos.
Ouais.
Et c'est pas des lol. C'est pas genre moi, je suis un psychopathe des chiffres, etc., etc. Pour des vidéos comparables et tout, je vois la restriction.
Non, mais oui, oui.
Parfois, j'ai des vidéos qui restent à 32 vues
oui.
pendant très longtemps.
Pareil.
Et alors qu'elles ont un taux de like et de commentaires qui est supérieur. Et les gens, après la vidéo, elle va monter, mais petit à petit. Et puis, ça m'est arrivé avec une des vidéos que j'ai sorties il n'y a pas longtemps. Parce
Attends, tu parles de YouTube
de
ou
Facebook. Je sors une vidéo sur c'était quoi au début, c'était Macron, la Russie, etc. Et comme dans le titre, je suis un con, moi, en plus de dans la vidéo, parce qu'ils ont des robots pour la vidéo ouais. aussi, ça arrive à déchiffrer ce que tu dis. Dans le titre, je mets des mots-clés.
Et ouais. Ouais.
Elle a été restreinte à un moment donné pendant un petit moment. Et je sais pas, je pense qu'ils ont une... En France, ils revoient tout manuellement à chaque fois. Et à un moment donné, je me suis réveillé le matin et elle a explosé. Mais elle a été restreinte pendant un petit moment.
Ouais, pendant longtemps. Et puis d'un coup,
d'un
il l'ouvre en fait.
Ouais. J'étais bloqué à quelque chose comme 200 partages.
Ouais.
Longtemps. Elle bloque toute une journée, puis une autre. Et le lendemain ou surlendemain matin, pas 1000 partages, 2000, 3000, 5000.
Ouais.
Mais... Qui a vu si dès le début tu vois
bien sûr, bien sûr. Ouais.
Et c'est des vidéos qui bon après ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous moi. Qu'elles soient vues ou pas, je m'en bats les couilles. Je me dis j'ai fait ce que j'avais à faire, ça marche pas.
Mais après tu vois c'est ça, c'est qu'on se fait avoir aussi par le truc. C'est un abandon. C'est comme de dire oui c'est pas grave si on plagie. En vrai tout est à mettre en avec les paramètres de à quel point t'en chies. Personnellement oui, et professionnellement et ta psychologie générale tu vois genre en gros si t'étais à deux doigts
de
d'arrêter ou non plutôt d'arrêter en fait tu vois et qu'on te pique un truc et qu'on buzz sur ça et que toi du coup tu te sombres un petit peu et que du coup t'as plus
c'est grave
même si t'as les idées en vrai encore une fois tu vois et moi je suis d'accord avec le truc de en vrai un esprit qui crée il va créer plus en fait de toute façon. Mais voilà, t'étais à deux mois de finir ton chômage et maintenant, genre, il va falloir que tu reprennes le boulot de consultant ou je sais pas quoi et que tu vas plus pouvoir repasser sur les plateaux, etc.
Ouais.
Ça tue beaucoup plus d'artistes, tu vois, le malin,
ouais,
comme
ouais,
ça.
Le malin tue l'artiste, ouais.
Que ce soit celui-là ou que ce soit celui des algorithmes, en fait. Parce que, tu vois, les algorithmes...
Je comprends.
J'avoue que moi aussi, moi, tu sais, mais moi, ça va. Mais je le sais, hein, je suis shadowban de malade. C'est-à-dire que vraiment, sur TikTok, j'ai plus... Il y a des fois deux vues en fait, ce n'est pas possible. J'ai 500
enfin tu vois je bloque beaucoup voilà. Je connais le mec de TikTok, j'ai parlé avec eux parce qu'il m'avait pendant un moment il m'avait employé et il m'expliquait qu'en fait les Chinois ils ont un
alors que je les défends tout le temps les Chinois
ouais, c'est vrai
mais ils ont un vrai truc de c'est pas ça serait pas conspirationniste de ta part de dire qu'ils shadowban. C'est vraiment, ils le font vraiment.
Non, mais là, je me pose même pas
de questions.
C'est quoi les sujets
que... Pourquoi c'est shadowban?
En fait, je ne sais pas. En fait, moi, c'est plutôt surtout qu'est-ce que j'ai sorti à un moment comme vidéo qui a fait qu'à partir de ce moment-là, ils m'ont shadowban.
Ouais,
tu vois.
D'accord.
Et là, c'est pareil, en fait, sur Instagram. Là, ce que tu disais sur une vidéo qui est bloquée, quoi.
Ouais.
Et là, je sais pas s'il y a eu quelqu'un qui est reparti sur mes vidéos et faire genre, bon, allez.
Ouais.
Celle-là, il fait que parler de chocolatine, c'est pas grave. On la déloque. Et d'un coup, là, hier, alors que j'ai sorti il y a 4 semaines, il y a plein de trucs. Tu vois.
Parce qu'en fait, il y a un robot qui la bloque. Et parfois, moi, j'ai appris, je pensais pas, hein, mais c'est une vérité, il y a même un documentaire dessus. En fait, je me disais, c'est impossible que les personnes les regardent manuellement à chaque fois. Tu vois.
Ouais,
il y a tellement.
Si, il y a des équipes pour ça.
Il y a des équipes. Ouais, ouais. Donc, ça veut dire que les robots bloquent dans un premier temps et elles doivent être checkées par les équipes pour savoir si oui ou non, en fonction de ton nombre d'abonnés et tout, est-ce qu'on la laisse passer ou pas ? Et il y a des gens qui se disent, ah, il y avait tant de mots-clés à bloquer.
Mais oui, c'est
mais
ça.
En fait, il est sur scène, donc allez, en fait, ça passe.
Bah, heureusement qu'il y a ça, le double-check humain, en fait.
Mais à mon avis, ça doit être très, très rare, le double-check humain. C'est ça, le truc. Il y a Rayoul TV, bonjour. Il y a des gens qui nous regardent sur
qui me disent... Moi, je vois pas l'écran, je peux même pas dire ce qu'ils me disent.
T'avais sûrement sorti une vidéo sur le chinois, mais c'est ça que je dis, c'est que j'ai littéralement regardé... J'ai un autre podcast qui s'appelle Dernier podcast après la fin du monde, Rayoul, que... Toute la conclusion de chaque thème, c'est en vrai la Chine a raison. Donc moi, ça me fait personnellement chier. Je vais envoyer un courrier à l'ambassade de Chine. Je vais dire, hey, les gars, je suis votre premier sponsor.
Je crois qu'on s'est pas bien
France.
Compris en fait.
Oui. Donc on arrête de me shadowban quoi. Mais
est-ce qu'on peut en revenir à un truc que tu disais tout à l'heure ? Tu disais ouais, mais ça tue des gens, des humoristes,
oui,
etc.
Et du coup, tu vois ça aussi. Alors, je suis d'accord que de toute façon, les gens, il faut pas qu'ils comptent sur. Enfin, moi, j'en ai un peu marre. Qu'en vrai, tous les humoristes ne comptent que sur « Oh putain, j'espère que celle-là, elle va buzzer. » Tu vois ce que je veux dire ?
Oui.
Mais moi, j'aimerais bien que… Et moi, je suis plus en mode…
Si ça doit marcher, ça marche. Il faut être fataliste.
Ouais, et puis aussi un truc… Mais après, c'est ça. C'est-à-dire que je me dis ça, mais parce que j'ai le confort pour l'instant pour me dire ça. Et aussi, je me dis… Voilà, moi, je produis des trucs. Je produis des vidéos ou des podcasts ou des vidéos sur YouTube, etc., des extraits où je me dis, tiens, tu sais, genre, je fais un body of work, quoi. Je fais mon œuvre. Et qu'en vrai, s'il y a quelqu'un que ça intéresse, il se dit, ah, tiens, lui, je l'ai vu. En fait, si tu cliques, moi, sur n'importe quel réseau social, tu peux voir plein d'autres vidéos et tu fais genre, ah, ben, en fait, j'aime bien ou j'aime pas, tu vois. Mais t'as de quoi regarder, en fait.
D'être content de ce que tu fais.
Ouais, et moi, je suis content des trucs. Bah oui, les mini-sketchs, le bout de sketch que j'ai mis, bah ouais, ça va, quoi. Je suis content. Mais je compte pas sur une seule qui va
mais tu postes quand même à une certaine fréquence parce que le système te demande cette fréquence.
Alors, après, moi, je ne le fais pas et c'est pour ça que je perce pas.
C'est pour ça qu'on a que des clémentines de merde.
Voilà, avec pas des clémentines d'Espagne. Les clémentines de Hongrie, là. Elles sont blanches. Elles sentent encore le poudre de l'Ukraine, là. Mais...
Hop, Shadowban.
Ouais, c'est ça. Mais c'est que, oui, par contre, effectivement, moi, je ressens beaucoup l'aliénation de l'algorithme qui me dit « tu dois poster tous les jours quand tu es sur Instagram
».
Ou alors, même en podcast, hein, sur l'algo d'Apple Podcast, c'est une fois par semaine minimum.
Okay, ouais.
Et donc, il y a un truc de genre, moi, quand on m'oblige algorithmiquement à passer ma vie à bosser pour toi, au final.
Gratuitement.
Gratuitement. Ben, j'ai envie de renverser le gouvernement. Oui. Ouais.
Avec l'aide de l'armée chinoise, c'est ça.
Avec l'aide de l'armée chinoise, j'ai tout préparé.
Non, mais tu te dis, tant qu'à faire, si je dois le faire semaine après semaine, autant que ce soit quelque chose que je kiffe faire.
Oui, et du coup, mais c'est aussi, tu vois, on en revient au truc de ce qu'on disait au début, de j'aime faire plusieurs choses différentes en même temps, où j'aime recevoir plusieurs invités, où j'aime faire plusieurs choses.
Par contre, les gens aiment t'enfermer dans quelque chose de spécifique.
Et oui, mais surtout, si moi, genre cette semaine, j'ai envie de faire une vidéo sur Instagram, mais... La semaine d'après, j'ai envie de faire deux podcasts. Ben voilà. Sauf qu'en fait, ça ne va ni à l'une plateforme ni à l'autre.
L'algorithme ne comprend pas ce que tu fais.
Oui. Mais il n'a pas à comprendre en vrai, normalement.
Je vis ma vie, ok.
Et c'était ça le début d'Internet, normalement. L'Internet, c'était juste, on offre à tout le monde, pareil, ce que tu offres, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en vrai, tes abonnés, déjà, vont voir ce que tu fais. Normalement, c'est ça.
C'est ça. Mais après, t'étais pas mis en avant. Aujourd'hui, l'algorithme t'aide à parfois être mis en avant. À l'époque, on ne pouvait absolument pas te mettre en avant. Il fallait taper exactement Areski, Sugar, le dernier podcast avant la fin du monde, épisode 1, avec.
Pour
et
me
si
trouver.
Tu t'avais pour te trouver dans le moteur de recherche. Donc, t'as Lycos qui partait et qui revenait avec un os. Tu disais, mais non, je te demandais Areski, Sugar. Tu me ramènes un porno gay. De quoi tu me.
Vous connaissez la théorie conspirationniste, j'adore. On va rentrer dans
ça. Pages Google.
Ça s'appelle The Dead Internet Theory.
Oui,
j'avais commencé à
t'en parler. Parlé très longtemps.
Et non, je t'ai parlé des hommes chiens, surtout.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà. Vous avez des discussions, les gars.
Non, parce que moi, là, ces derniers mois, je suis rentré dans un terrier de lapin, un vortex sans fond de théories sur le fait qu'on vit dans une simulation, mais au-delà de ça, de gens qui ont des anecdotes du fait qu'ils te disent, en fait, moi, j'ai eu la preuve qu'on vit dans une simulation parce qu'il s'est passé ci ou ça. Bref, ça, c'était ma vie ce dernier mois. Mais... De conspiration en conspiration, je suis tombé sur une qui dit, en fait, Internet est mort en 2004. Et depuis 2004, donc 2005, début de Facebook, tu vois.
C'est chaud parce que c'était 2005, ouais, 2007 début, en
début
France.
Début de Facebook, ça ouais, voilà. Et en gros, depuis cette charnière-là, c'est des algorithmes qui créent du content, enfin, c'est une IA qui crée du contenu sur Insta, sur Internet en général, et du contenu qui en général est plutôt lisse. Où avant, tout le monde dit genre, ah oui, mais de 95 à, 2000, à 2007, justement, on a le souvenir qu'Internet, tu voyais des choses que tu n'avais jamais vues et que c'était incroyable, etc. Et que depuis 2007, tout est devenu lisse. Et aujourd'hui, ce que tu fais en fait sur ton téléphone, c'est d'aller sur max 10 ouais. sites bien codifié. Genre, tu vas sur Huffington Post, tu vas sur Instagram, ouais, et tout ce que tu lis, c'est que des choses plates, en tout cas pour la plupart des gens. Et du coup, eux, leur théorie, c'est que c'est une IA qui maintenant a pris le... C'est pas que ça a pris le contrôle, c'est qu'en fait, elle a été commandée pour rendre justement tout le discours lisse et ou alors pour polariser les gens.
Ouais.
Et c'est tout. Et pas de nouvelles choses.
Parce
comme
que l'idéal avant, d'Internet, ouais. il est flippant pour tout le monde. L'idéal, tout le monde dit ce qu'on veut. Cette espèce de grande bibliothèque. Ça m'étonnerait pas qu'on ait fini par faire mourir ce truc-là insidieusement. Ouais. Ça m'étonnerait pas du tout.
Ouais. Mais après, tu vois, c'est aussi. Enfin, c'est comme pour toutes les théories conspirationnistes. C'est qu'en fait, sans y voir un grand dessin à la base, c'est juste l'argent. Ouais. Rend le truc tout lisse lui-même en fait, sans enlever le truc, parce qu'effectivement Instagram c'est plus addictif parce que des gens, on leur a demandé codez-nous un truc plus addictif, et après on leur a dit c'est bien s'il y a que des chatons dedans, et c'est réglé quoi. Du coup tout s'autogère pour qu'au final les êtres humains soit ils s'écharpent sur un sujet dont tout le monde en vrai s'en bat les couilles soit ils lisent que des trucs qui servent à rien, genre...
Regardez ces stars qui ont changé physiquement.
Oui, voilà, ouais, c'est ça. Que sont-ils devenus deux mois après, tu sais, ok.
Ouais, une consommation... De toute façon, Internet, c'est devenu comme la télé de l'époque, c'est-à-dire qu'il y a du bon à prendre et du bon à... et du mauvais à laisser, quoi.
Mais le mauvais est bien valorisé, quand même, puisque majoritairement...
Mais le mauvais est bien valorisé à la télé aussi.
Ouais, c'est pour ça. Ça a perdu un peu ce...
Mais justement, c'est rien... ne peut plus aujourd'hui être contre-culture. C'est-à-dire que tu vois, avant, tu pouvais avoir le gars underground, le gars genre en mode Kurt Cobain, Seattle, le gars, concept. Moi je me douche pas, mais je fais du grunge et tout, et que d'un coup, tu peux en faire une star et tu fais genre, waouh, la contre-culture, voilà, mais ça mettait du temps, mais aussi ça devient une star et que le gars, il a le temps de garder un peu son truc contre-culture. Aujourd'hui, quelqu'un qui arrive et qui dit genre, ouais, moi je fais pas les choses comme les autres... En 4 secondes, il est sponsor par Reebok. Et à partir du moment où il est sponsor par Reebok, il est dans la culture. Il est quoi.
Comme tout le monde.
Et tout le monde fait comme lui. Donc.
Et on lui dit, oui, par contre, tu vas arrêter de parler des... X, ce que tu veux.
Arrête avec la Chine.
Oui, c'est ça. Et tu dois dire, tu es pour les Ukrainiens. Voilà, c'est ça que tu dois dire. Ouais. Et voilà.
Ouais, je sais pas si c'est aussi... Mais ouais, je comprends. Et voilà, c'est la police qui vient nous chercher. Ah bah c'est cool. Alors, on a poncé tous les thèmes, là
je crois. Il nous reste juste l'Ukraine.
pour en revenir aux humoristes, parce que tout à l'heure, quand tu disais il y a des humoristes là qui sont un peu... qui se laissent délaisser, c'est triste pour eux, etc. Ouais. etc. Après, je pense que quand tu es un humoriste, avant d'être un humoriste, tu es un humain. Et quand tu es un humain, ton champ d'action, il est limité. La force de ton esprit est limitée au bout de ton bras, en fait. Donc, la seule chose que tu peux changer... c'est ton micro-environnement, celui que tu peux. Et que les autres se retrouvent dans cette situation et que ça soit triste pour eux, c'est une chose.
Ouais.
Mais après, tu as une force de conviction à avoir. Et après, il y a une sélection naturelle. Pourquoi on veut réfuter la sélection naturelle? Il y a des gens qui vont perdre leur conviction de créer et qui vont faire autre chose, qui n'étaient peut-être pas destinés à ça, qui ne le faisaient peut-être pas pour les bonnes raisons.
Je vais te dire pourquoi, en fait, pour moi en tout cas. Je suis d'accord, c'est-à-dire que oui, on a tous... Bah après, c'est ça le truc, on a tous une inéquité de l'endurance, de la persévérance, etc., etc. Pour moi, l'idéal, c'est d'au moins faire le max pour que tu arrives genre plus loin que ton endurance de base. Tu vois, genre en mode t'es myopathe, on te met... tu un bénéficies du max de la technologie d'aujourd'hui.
Ouais.
Voilà, ce sera mieux pour toi. Peut-être t'arriveras à un moment où le gars, 2 ans avant de mourir, il aura découvert un truc et ce sera parfait pour tout le monde, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que pour l'art, ce que ça fait, c'est que ça ne fait que souligner encore plus le fait que ceux qui vont y réussir, c'est ceux qui sont le plus confortables déjà, en fait. Ça va être ceux qui ont papa, maman, qui sont déjà dans le biz. Bah,
oui, c'est le même principe.
Je suis pas exactement d'accord avec toi. Je comprends ce que tu veux dire, parce que souvent, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'énerve. Mais je me dis, ils arrivent avec leurs armes, on y arrive avec les nôtres et tout. Mais ce qui est vrai, c'est que, selon moi, c'est que... Tu connais John Amon ?
Pardon, John ?
John Amon.
Ah oui, le truc de...
Le mec qui a
fait...
Et il a une phrase, je ne sais plus comment il le définit, mais en gros, il dit que aujourd'hui, la communication, c'est le degré zéro de l'art. Et qu'en gros, aujourd'hui, ce qu'on considère comme de l'art, c'est juste parce que tu as réussi à bien le marketer, à bien communiquer dessus. Et je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes aussi, ou d'artistes, ou de trucs comme ça, qui ont une belle couverture médiatique, qui ont une belle com ou qui arrivent à se vendre comme un bonbon qui est très joli, même si le bonbon à l'intérieur, il est fait de manière industrielle dans toutes les usines. Et donc, ce n'est pas forcément quelqu'un qui vient d'une bonne famille, qui a les enjeux. Mais c'est aussi un mec qui a compris qu'être artiste aujourd'hui, ce n'est plus être artiste, mais c'est aussi être un bon communicant.
Oui, mais pour moi, ça enlève l'art de l'artiste. Quoi. Ça enlève
même,
l'art de
ça
l'art.
Ça reste quand même un petit peu dommage.
Parce qu'en fait, pour moi, tu as passé 90% de ton temps à te dire, tu sais quoi ? Ah ouais, je vais aller imprimer plein d'affiches de moi et je vais les mettre comme ça, juste en disant non, je ne suis pas connu, etc. Plutôt que de passer du temps à dire genre, attends, mais qu'est-ce qu'on fait
mais la
sur
finalité.
Terre ? Tu vois
mais
ce que
la,
je veux dire ?
La,
le vrai contenu de l'art. C'est-à-dire qu'en gros, tu sais, tu passes devant un tableau et tu fais genre, oui, tu peux me raconter l'histoire de comment il a dit vraiment j'aimerais que ce tableau vous l'exposiez dans votre galerie d'art et c'est comme ça qu'il a été connu. Ok, c'est une anecdote par rapport à moi devant le tableau qui me dit genre, ah, je crois que je vois ce qu'il a voulu dire et moi être lancé dans ma réflexion. Parce qu'en vrai, moi, au bout d'un moment, le gars qui met plein d'affiches, la meuf qui se met toute nue, le truc qui fait ça, et... J'ai compris que maintenant, le game, c'était juste attirer l'attention. Et ma vision de ça, c'est toujours la même. Le meilleur marketing qui existe, c'est le terrorisme. Si tu veux qu'on parle de toi pendant longtemps, tu fais... Voilà, si le 11 septembre, c'était au final pour remplir la petite loge, on fait... Ah oui, là, c'est bien fait.
Alors, donc, alors,
pour juste deux cutters.
Tu préfères être Van Gogh ou Picasso ?
Il y en a un qui manque quelque chose, hein.
Mais l'idéal, c'est d'être, voilà, c'est au milieu, quoi. C'est d'être un bon petit Monet qui tu baises tranquillement, t'as pas... On parle de toi, t'es pas mort avant qu'on te donne de l'argent.
Quelle prétention, quoi. Bah, comment comparer le stand-up à des œuvres d'art qui ont marqué l'époque, le temps.
En vrai, je tire la couverture sur n'importe quel art. Hein. C'est-à-dire, ce qu'on dit là, en vrai, en stand-up, c'est pareil, je trouve, vachement pour la musique. La musique, c'est ultra difficile de sortir du lot maintenant. Ouais. Pourquoi est-ce que j'écouterais ton SoundCloud ? Tu vois, alors que peut-être tu fais la meilleure musique.
Ouais, il y a des mecs formidables qui existent, on les connaîtra jamais.
Ouais.
Ils vont mourir, faire des dépressions.
Mais non, mais oui, ils vont faire des dépressions pile au mauvais moment. Et après, au bout d'un moment, il va falloir qu'ils bossent. Donc, ils vont repartir sur un truc parce qu'ils n'ont plus de cash flow. Tu vois, et que surtout on a, après c'est con, mais genre c'est bizarre de soutenir une élite un peu, mais c'est un peu ok, qui décide aujourd'hui, enfin plutôt qui c'est mon exemple de Tim Dillon et tout ça, c'est-à-dire qu'à un moment aussi Joe Rogan il dit genre lui je l'invite parce qu'il est drôle, quoi.
Ouais. Mais il y a moins ça, justement, qu'avant.
Et voilà. Et le truc, c'est
ouais, moi, j'ai un peu cette élitisme de... Ouais.
Regardez, je vais vous montrer quelqu'un, là.
Ouais.
Par rapport à l'art qu'on fait, c'est vraiment bien moi, je trouve. Tu vois.
Ouais.
Et si je dis, moi, faites-en une star, ben, ça se fait un peu naturellement.
Ouais. Finalement, c'est toujours le public qui décide, quoi qu'il arrive.
Ouais, moi, pour moi, le public va décider... devrait décider après, parce que là justement c'est l'algorithme qui décide, le public. Moi je serais d'accord avec toi, avec ce que tu dis
Il y a des contre-exemples
et encore je suis pas totalement d'accord, dans le sens où en gros genre Le Parrain ça aurait jamais été crowdfundé, quoi. Le public il aurait jamais dit attends, le gars qui a fait qu'un seul film avant, vous allez lui faire ce roman là, donnez lui $1 million, il va jamais s'acheter Marlon Brando, il va quand même s'acheter des...
Encore une fois, c'est le public qui a décidé. Il aurait pu flopper. Finalement, il a marché. C'est devenu
Il faut faire le film d'abord. Moi, c'est juste créer l'art. Enfin, parce que créer l'art, en vrai, ça demande quand même de l'argent. Quoi qu'on se dise, tu vois ce que je veux dire. Parce que nous, on est là, genre, non, l'argent, ça vient après. Non, en fait, parce que pendant que tu as écrit tes vannes, faut payer un loyer déjà.
Ouais.
Ouais.
Mais je sais pas.
C'est un long débat. Impossible qu'on rentre dedans, mais sur qui choisit pas. Mais aujourd'hui, j'ai l'intime conviction que les gens qui choisissent ont moins de pertinence qu'à une certaine époque. Et elle se fait très simplement, la corrélation, je la fais de manière factuelle, c'est qu'à une époque, ceux qui décidaient, c'est ceux qui avaient un pouvoir d'achat. Aujourd'hui, avec Internet, on donne la gratuité du contenu. Et qui va le plus sur Internet ? Des jeunes entre 10, 12 et 18 ans. Et ces jeunes-là, dans les années 90, n'avaient pas de pouvoir d'achat et n'avaient pas Internet, donc ne pouvaient pas choisir d'une Weshden ou d'autres humoristes qui ont un public assez jeune. Mais aujourd'hui, c'est eux qui décident de la culture populaire. C'est-à-dire que là, il y a un nivellement vers le bas qui se fait. Alors, je ne parle pas de tous, mais factuellement, il y a un nivellement vers le bas qui se fait sur la culture populaire parce qu'aujourd'hui, ceux qui décident, c'est les jeunes. Même quand tu as des millions d'abonnés sur YouTube, tu as des millions d'enfants.
Ouais.
Tu n'as pas des millions de vingtenaires, trentenaires qui ont un pouvoir d'achat. Alors qu'à l'époque, c'est ceux qui avaient un pouvoir d'achat qui achetaient des albums et qui rendaient populaire une personne.
Oui, tout à fait. Ouais, c'est pas bête.
Voilà, c'est un peu ma théorie.
Mais c'est intéressant aussi parce que du coup, tout ce qui sort, c'est infantilisé, quoi. Genre, c'est pas, tu sais, tu dois être pop aujourd'hui.
Ouais, ouais.
Il faut vraiment tout le temps être pop.
Faut tout le temps être pop.
Ouais.
Et elle est où la couleur ? C'est la liste de Schindler un peu genre. Ouais, mais je sais, c'est les camps, mais la couleur, quoi.
J'ai archi l'intime conviction, contrairement à peut-être d'autres humoristes qui ont des ambitions illimitées, j'ai l'intime conviction que je remplirai jamais des zéniths.
Parce que
je suis incapable de parler de mes caleçons sales.
Mais c'est
incroyable. Mais c'est pas méchant pour les autres. Je me dis, frère, oublie ça, c'est impossible. T'aimes trop mettre les pieds dans le plat et là où tu veux pas. Et là où les gens ne veulent pas, parce que les gens veulent justement sortir de ce monde-là, et t'arrives et tu dis, vous avez les caleçons et tout, et le complot judéo-maçonnique, qui part en couille.
Parce que, en vrai, pour moi, c'est ça. En vrai, pour moi, le stand-up et l'humour en général, c'est se moquer des choses sacrées. Donc en vrai, moi, à partir du moment où cette semaine, tu me dis, c'est l'Ukraine de sacré, bon ben, c'est l'Ukraine qui va sortir.
Moi, j'ai des messages
en
dessous des vidéos qui disent, tu peux vraiment rigoler de la guerre ?
Justement, trop tôt. Sinon, on fait que la même vanne sur le gars qui glisse sur une peau de banane tout le temps. Voilà.
c'est drôle.
Regardez comment il a glissé cette fois-ci. Non.
Même hier, je crois, sur Twitter, bon, faut que j'arrête Twitter, mais pour la journée, pour les droits des femmes et tout, j'ai vu passer des posts de meufs qui disaient j'admettrai pas qu'on fasse des blagues aujourd'hui sur ce thème.
Excuse-moi, je suis désolé, mais tu parles pas des femmes. Il n'y a pas de femmes autour de la table. Je refuse d'être... Non, parce que moi, j'ai peur. Les femmes, aujourd'hui, me font peur. Voilà. Et quand il y a un débat avec les meufs et tout, moi, j'essaye d'écouter, de comprendre, de faire un mec. Parce que si tu parles...
Moi, j'ai absolument aucun problème. J'ai la prétention de pouvoir parler à leur place. Non, pas du tout. Non, je sais, j'ai droit dans mes votes. On peut dire le mot femme ou les triggers
aussi.
Allez,
on peut aller dans la déconne un petit peu. Moi, en vrai...
Non, franchement, moi, je ne déconne pas sur ça.
Quel que soit le sujet, spécialement si c'est un sujet d'oppression, je préfère parler avec les potentiels oppresseurs, en fait. J'ai pas besoin de parler avec les victimes. Je sais que vous êtes des victimes. Je sais que c'est dur. Je sais que... à la limite, qu'on pourra m'apporter de plus, c'est de nouvelles manières auxquelles j'avais pas pensé, sur lesquelles tu es une victime.
Mais je suis
au courant de que déjà, tu es une victime. Donc, moi, je préfère parler aux oppresseurs pour dire genre, il y a peut-être des choses à faire pour qu'on arrête d'oppresser.
C'est tous les hommes.
Ils sont tout le temps pointés du doigt. Et à un moment donné, quand est-ce qu'on cite leur nom ? C'est toujours les hommes. Mais qui ? Moi, autour de moi.
Le système, en général,
c'est le système,
a fait qu'en naissant homme, quand même, on sait qu'on a une marge de manœuvre et on s'autorise, moi pas personnellement, mais on a de toute façon un peu plus de choses dans notre sac à dos et qui nous permet mais même des trucs, même quand on est méga féministe et tout, on se rend pas compte des petites attitudes.
Oui, il y a plein de choses.
Les regarder en face, y réfléchir. Déjà, c'est. Continue à le faire quand même. Mais en avoir conscience.
Genre, tu sais. On va pas ne pas en profiter quand même.
Non, mais les femmes sont oppressées, c'est sûr, mais de la même manière que certaines minorités. Et il y a un humoriste, j'aime beaucoup son passage, Ray Mendes. Il a un passage où il met en corrélation le racisme de les négro, j'aime pas le dire, mais la négrophobie. Et,
ah oui, j'ai vu.
Et sur les femmes, sur la misogynie, etc.
On vit la même chose.
Et finalement, il arrive à mettre en corrélation le fait qu'ils vivent exactement la même oppression sociale. Et là, ça m'intéresse.
Oui, bien sûr.
Mais parfois, j'ai l'impression qu'il y a une hiérarchisation des problèmes. Ouais, alors, ça, autant que le féminisme, c'est une chose qui est légitime et que le système patriarcal, l'oppression existe. Mais j'ai l'impression parfois qu'on hiérarchise beaucoup trop les souffrances.
En tant que Vincent Bolloré,
c'est génial.
C'est génial.
Ouais,
parce
parce
que tu vois,
là, il y a combien de gens là, combien de gens.
Moi, je vois la communauté noire qui envoie des tweets aux féministes et féministes qui envoient des trucs à la communauté noire. Je fais
LGBT, les LGBT.
Personne m'envoie de tweets. Ouais, personne m'envoie de messages à part pour me dire que j'ai gagné 5 points ce matin ou
que. Exactement ce que je veux dire, c'est que c'est archi clivant et qu'ils ont réussi à diviser pour mieux régner. Et c'est là où je vais en venir quand je dis que il y a telle ou telle communauté qui ne devrait pas prendre le lead sur les autres, c'est là où je veux en venir. Donc, ce n'est pas le féminisme que je critique en tant que tel, mais c'est et le féminisme et les mouvements contre l'homophobie et les islamophobes, enfin le mouvement contre les islamophobes et les trucs contre les noirs et les agressions policières. Parce qu'en fait, ils ont réussi à faire ce qu'on disait. Parce qu'on est con, on le sait. Diviser pour mieux régner. Diviser pour régner. Et tu les laisses faire et tu dis non, mais il faut. Et tu les laisses appliquer cette division sans t'en rendre compte et tu continues à dire des phrases comme mais ce qu'ils essayent de faire, c'est diviser pour mieux régner. Bah non, frère, ils l'ont fait et t'es encore là à croire qu'ils l'ont pas fait.
Oui,
et c'est ça qui me dérange. En fait, vraiment. Voilà, on finira sur ça.
Ouais, on finira sur ça. Prenez les conclusions que vous avez. Genre, c'est les gars, ils ont réglé le problème. Bon. Moi, je reviens la semaine prochaine. J'espère que d'ici là, il n'y a plus de sexisme.
J'en parlais avec un pote juste avant, je te l'ai dit. Débattre de ça pendant des heures, ce qui me fait le plus mal, c'est que ça ne changera rien.
Ouais.
Tu peux dire à toutes les femmes que tu les aimes, à tous les homosexuels qui peuvent vivre leur sexualité, tu peux dire je suis contre l'islamophobie, contre la négrophobie. Nous, on va avoir parlé pendant une heure et ça n'aura rien changé.
Mais là, ce qu'on parle de choses, le changement, il se fait tout petit à petit quand même. Il y a des choses qui changent. Ouais. On le verra pas maintenant, tu vois, mais même,
ou alors...
même dans rien que la place dans les médias des minorités, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps que les gens s'embrouillent.
Ça commence,
ça arrive,
un peu, c'est
ça
vrai.
Commence, ouais. Tu vois, même l'homosexualité et tout. Moi, je pense à mes parents, enfin, les vieux
qui sont homosexuels.
Ouais, mes parents qui sont homosexuels. D'accord. Non, mais les vieux qui pour l'instant sont toujours homophobes, qui n'aiment pas trop quand à la télé ils voient deux hommes qui s'embrassent, ils vont mourir et en fait progressivement ça arrive.
Oui,
il faut des gens excessifs pour le...
Moi, je suis contre l'excès, mais aussi en vrai fais passer des lois, fais pas chier.
Oui,
quoi.
C'est ça.
Genre en vrai, moi j'en ai rien à branler de la PMA.
Et c'est ça.
Tu vois ce que je veux dire?
J'en ai rien à branler.
Faites en plus de gosses si vous voulez. L'important, juste élevez-les bien.
Ouais,
en fait, ça. Et genre personne ne fait la police pour les cassos qui ont des enfants. Par contre, deux gays du 11e qui ont au taquet de thunes, puisque, comme dirait Kenny, ils gagnent chacun 100% de salaire. Et pas 80% de salaire si c'est des hommes. Ouais. Ils peuvent carrément élever tranquillement dans le confort et dans l'amour des enfants. Mmh. Mais derrière, personne fait la police après qu'ils soient nés, en fait, les enfants. Ouais. Tu vois ce que je veux dire?
Moi, ça, c'est l'un des trucs les plus importants. J'y ai pensé la dernière fois. Je me suis dit, putain, je pense que c'est un peu autoritaire. Mais ouais, il faudrait pas faire passer des concours à tout le monde avant de faire un enfant. Ne pas autoriser.
Ah, mais le malade.
Ne pas autoriser les cassos, en fait.
C'est
un peu presque de l'eugénisme.
J'en parle avec Lamine Lesbip, parce qu'on n'a plus le droit de dire son nom, avec Naïm, mais on parlait de... Faudrait passer un permis pour avoir des enfants.
Permis de
consommer. J'avais ça dans mon premier...
dans ton premier spectacle.
J'aurais
ça dans mon deuxième spectacle.
C'est vrai. Non, mais un permis pour avoir un gosse, ça... T'imagines, t'as un permis pour pêcher, t'as un permis pour chasser, et pour... créer un nouvel être humain qui va interagir 60 ans avec tout le monde.
Ouais.
Besoin de
tous
rien.
Les problèmes de la société, de tueurs en série, de dictateurs, de machin, ça commence avec névroses, l'éducation,
exactement.
Avec les névroses. Donc tu coupes là sous le pied, après tu es uniforme, quoi.
C'est pour ça.
La Chine.
Je redis mon équipe, voilà ce qui se passe, mon protocole, c'est que je crée un campus universitaire en Australie. Ça devient qu'un campus. Je prends tous vos enfants et je les élève moi-même grâce à des intelligences artificielles et des robots. Vous mourrez dans la paix et la vieillesse.
Tu sais que tu peux pas techniquement.
Et on ré-SM les enfants après qui vont redevenir le.
Ouais, c'est nouvelle... replanter. En fait, c'est de la mourir. Oui, on va replanter l'humanité.
Ça, et on fait ça régulièrement parce que tous les 300 ans, il y a trop de traditions et de cultures qui se recréent.
Et de greffon en greffon,
on,
ça.
Voilà, et
ça
on remet,
mal.
On réépure.
J'aime pas beaucoup ce mot, épuré. J'aime pas beaucoup.
Vous rigolez, mais tu sais qu'il suffit qu'on prenne nos conversations, qu'on les décontextualise, qu'on en fait ce qu'on veut. C'est pour ça que j'aime pas les podcasts. C'est que j'aime pas les podcasts parce que j'ai toujours peur.
Qu'on prenne des trucs et
qu'on dise c'est ça que t'as voulu dire.
Ouais.
Non, je suis normal, laissez-moi tranquille.
Moi, c'est exactement pour ça que j'aime les podcasts, c'est qu'il y a le temps d'expliquer quelque chose
mais
d'un
qui a
peu
le temps
plus
d'écouter.
Fin. Bah oui, mais après, c'est les gens qui m'écoutent, du coup, ils écoutent le truc en entier. Par contre, effectivement,
si quelqu'un prend un clip,
mais en fait, il peut le faire tout le temps à ce moment-là, il te double.
Mais c'est ce qui se passe sur Internet et
tout. Il peut même te faire filmer dans la rue en train de dire des bêtises aussi.
Oui. Oui, mais après, c'est vrai que toi, souvent, tu dis genre « Ouais, dégage, espèce de juif et tout ça. »
Ouais, mais je regarde s'il n'y a pas d'appareil photo, en général.
Est-ce que tu veux faire un peu de promo, justement?
Ouais, pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. C'est-à-dire personne, hein, à un moment donné, les gens disent « Ouais, là, je suis fatigué, là. » Et bah, je joue mon... C'est mieux quand c'est les autres qui le disent. J'aime pas le côté auto-promo et tout.
Mais d'ailleurs, je sais pas où tu joues.
J'ai fait un article.
Comme à la télé, alors.
C'est pas au point virgule.
C'est au point virgule.
Ok.
Tous les dimanches, mais ça, je te laisserai le dire après.
Ok, du coup.
Tous les dimanches à 20h.
C'est pour ça qu'une petite fiche, un petit conducteur.
Non, mais ce qui... Yeah, je te jure.
Drôle. Bah, fais-toi inviter par Drucker, que ça règle le problème.
Par Ruquier, j'aimerais bien, putain. Les répliques, qui est un média que vous connaissez sûrement, qui a beaucoup d'abonnés sur Instagram, m'ont proposé une interview pour faire la promotion de mon spectacle que j'ai fait, qui était très bien, et je l'ai pas fait sous forme d'interview qui est genre tu racontes relou.
Ouais.
Et ça a été un exercice de style où ils m'ont donné des vignettes d'actualité avec des, et je mettais une vanne, mettais un petit résumé de ce que je pensais du truc en dessous. J'en ai fait trois comme ça.
D'accord.
Derrière, ils disent qui je suis, ce que je fais. Ils ont mis d'autres vignettes où je vannais Macron. Et voilà, c'est tout. Et pas de « alors moi, j'ai commencé à 18 ans, j'étais trop… » Ça me pète. Et donc, l'autopromotion de dire « venez me voir au spectacle tous les dimanches à 20h au point virgule. » Chose que je viens de faire.
Mais avec une autre voix. C'est important, ça.
Ça toujours…
Non, mais c'est intéressant parce que, en fait, du coup, ce que tu dis, c'est juste. Mais tu vois, ça enlève du taf des médias. Parce qu'en fait, du coup, c'est toi qui leur crée leur contenu.
Parce que
c'est toi qui crée des vannes.
Exactement.
Genre, les journalistes, à quel moment on se lève et on fait quand même quelque chose? Parce qu'en fait, ils disent oui, Richard, à la place de te poser des questions, tu nous ferais pas des vannes? Chose qui se passe.
J'ai écrit,
moi,
j'ai
je vais poser ma cam et je reviens dès que t'as fini. Allez, bisous.
C'est un peu, en fait, il y a eu une rencontre et tout, mais c'est en vrai, finalement, c'est un peu ce qui s'est passé, même si elle a pris en compte, la journaliste a pris en compte qui j'étais, etc.
Ouais,
elle a réussi à écrire un petit résumé sur mon type d'humour et tout, et qui était assez judicieux d'ailleurs, que je vais remettre dans la description de mon spectacle.
C'est ce que je me suis dit la dernière fois, je sais pas qui avait, pour un show, avait écrit un truc sur moi, je me suis dit putain, mais c'est ça que je devrais mettre sur mon truc,
faut attendre des autres qui disent
exactement.
Mais toi t'es là, tu t'es dit genre, qui est-ce que je suis,
celui que j'avais écrit
à la
base c'était pas moi, à la base celui que j'avais écrit c'était pas moi non plus. J'avais laissé le taf à quelqu'un d'autre et je dis ouais vas-y c'est bon, je prends, parce que vraiment ce travail égocentrique, narcissique, d'écrire sa propre description. Et je soupçonne beaucoup de gens de le faire en mode, par exemple, si j'étais les autres, Richard Sabac est le nouveau prince de l'humour. Et c'est le mec qui écrit ça, tu vois.
C'est à partir de ce moment-là qu'on devient fou, en fait. C'est à partir de ce mot, prince de l'humour. Tu le dis à toi-même sur du papier.
Oui.
Trop bien, terminé.
C'est surtout si tu pars du principe que tu as commencé à chercher toutes les strates de la noblesse.
Oui.
En disant genre, parce que non, lui c'est un duc. Non, c'est moi le prince.
C'est moi le prince. Et l'empereur et le roi, c'est vraiment lui, mais c'est parce que je l'aime.
Oui, voilà.
C'est un peu ça. Donc voilà.
Donc voilà, sinon tous les dimanches soir, 20h, au point virgule.
20h, point virgule.
En ce moment même. En ce moment même.
Jusqu'à fin juin.
Ah, trop bien.
Trop bien, si ça dure, ouais. Trop bien.
Oui, trop bien.
Bon,
si
pour le moment, ça a l'air de bien aller.
Ok.
Voilà, vous aurez pas de middle party, vous aurez une première partie. Okay. Tu sais que Bounaïmin fait une dernière partie, lui.
C'est vrai?
Ouais,
ah
il
oui,
fait première,
c'est ça qu'il fait
dernière
bah
partie,
en fait,
c'est incroyable.
Oui. C'est bien.
C'est cool. Milieu, putain, c'est vraiment, faut porter ses couilles. Alors, j'ai pas fini. Ouais. Mais il va y avoir une pub, une pause pub, c'est ce que tu dis.
Vas-y, vas-y.
Non, c'est ce que je disais.
Ah, non, non, d'accord,
dans ton spectacle. Dans ton spectacle, tu dis alors vous avez bien rigolé ? Ouais, c'est pas fini.
Non, mais ton argument, tu te dis, c'est que en fait, tu n'as aucune raison à faire monter quelqu'un au début, parce que tu n'es pas encore fatigué.
Ouais.
C'est ça que tu avais
oui,
dit, moi, quand je suis venu. Et en fait,
ça.
C'est après que j'ai envie de faire une pause. Et en fait, c'est totalement
ça, je fais une pause pendant le passage. Ouais.
Et ça se passe toujours bien pour toi, dès que tu reprends derrière
ça se passe, ouais, ça se passe bien. Après, j'y vais. De toute façon, il faut foutre l'énergie qu'il faut pour la dernière,
parce que
le dernier sujet, quoi. Mais
c'est...
Ouais. Ouais.
Tu vois, je sais comment t'es sur scène. Mais si derrière tu mets Paul Mirabel ou Ghislain Blic ou des gens qui sont très statiques et qui n'ont pas une.
Après, je me dis effectivement, parce que je me rappelle que j'ai dit ah oui, c'est vrai que je lui ai demandé à lui. Tu vois, pendant qu'il ou elle joue, je suis là, je fais genre ah ouais, c'est vrai que l'énergie elle est comme ça. Et je me dis bon, ouais, ok.
Attends, quoi,
alors, ouais, non, mais après, c'est à moi de faire ce qu'il faut, quoi. Clément, de la pub pour quelque chose
Non, pas spécialement, pas à Paris.
Pas à Paris, ton ouais, Instagram, en
Instagram,
tout cas, est noté.
Clément Kersual, voilà.
Et bah attends, tu sais quoi, Clément K, hein, c'est ça?
Ouais.
Et bah il n'y a pas longtemps, je tombe sur. Alors, Clément K. Hein,
ouais.
D'accord. Moi, je sais qu'il y a un humoriste qui s'appelle Clément K. Je le sais parce que je te connais. Et la dernière fois, je vois Clément Hugo K, je crois. Ou Clément
ah oui,
K, Hugo.
Hugo Clément K. C'est Hugo Clément.
Je vois Hugo Clément K.
Ouais.
Et je me dis, moi, dans ma tête, je me dis, c'est Clément K. Et je vois un truc. Donc, je clique dessus pour voir. Parce que je crois que c'est un truc sur l'humour et tout. Et je vois 1 million d'abonnés. Je me dis, mais.
Il a percé quoi.
mais je l'ai mal. Je sais pas qui c'est en fait. Et je regarde, je me dis, ah non, c'est pas lui. Mais ça prête à confusion de
ouais,
ouf.
Ouais, ouais, mais en plus, Clément Casse, je vais bientôt. Comme je suis pas encore connu, il faut que je change, parce que je vais mettre mon nom de famille en entier. Mais c'est marrant parce qu'il y a un problème avec Quotidien. J'ai une critique bien réduite aussi au tout début de mon spectacle à la petite loge, il y a quelqu'un qui a dit super, il est vraiment top comme sur Quotidien. Et je sais pas, je sais pas ce qui est venu voir cette personne, ce qu'elle a attendu, si elle a reconnu quelqu'un sur scène. J'ai
ça
dit,
fait
wow.
un commentaire
c'est
positif.
Ah oui, c'est ça. Tu dis, bah c'est ok quoi.
Il était génial dans Star Wars, et ben la petite loge, il est encore mieux.
Ouais,
tu vois,
c'est tellement drôle ça.
Ça fait plaisir. Bah, au moins, c'est de la pub, écoute.
Ouais, ouais.
Voilà,
ouais.
C'est ça.
Et toi, t'as un peu de promo ?
Et moi,
toujours pas.
Moi,
spectacle,
écoutez, bah oui, c'est vrai, mon spectacle tous les jeudis soir, 21h30 à la petite loge.
Putain,
donc n'hésitez pas à venir.
21h30.
Ah ouais, tu trouves ? Je sais
ouais,
pas en
je
vrai, je me dis 20h, ce serait plus cool peut-être.
Ouais,
parce
mais à
que
partir
21h30,
franchement,
les
20h30,
gens...
entre 20h30 et 21h15, je trouve que c'est des créneaux de ouf.
Ok.
Ouais.
Et je voulais dire, bah, sinon pour ceux qui regardent, abonnez-vous au YouTube, au podcast sur Spotify ou Apple Podcast, partout où vous écoutez des podcasts. Et puis les Instagram de tout le monde, n'hésitez pas à les follow, ça fait toujours plaisir aux humoristes.
Je pense que tu vas les noter. Hein.
Ouais, ils sont notés déjà sur le truc. Et
on n'a pas d'écran, hein, je suis désolé.
Et voilà, et bisous à tous ceux qui nous ont accompagnés sur Twitch, donc le spot du rire, Mickey McFly, Rayoul TV, et je crois que
merci à vous tous, franchement,
voilà.
Ceux qui sont restés jusqu'au bout, qui ont écouté, c'est très sympa. Très sympa d'avoir partagé ce moment avec vous, parce que finalement, moi je regarde parfois des trucs sur Twitch et tout, et je trouve ça cool parfois qu'on m'incorpore au truc, c'est con, hein, mais qu'on me dise. Bah c'était cool que vous soyez là, je me disais ouais j'étais là.
Ouais, j'étais là, j'ai écouté.
J'étais 3 heures sur The Warzone, je suis resté quoi.
Et pour tous ceux qui écoutent ça en podcast, sachez que on va immédiatement enregistrer un épisode de fin de séance sur Batman avec toujours Clément K et Arnaud Decaze, scénariste de son état. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à fin de séance au podcast de ciné. Et voilà, et bisous à tous. Quoi.
Bisous à tous.
Bisous.
Salut.
big brother. I know you're out there somewhere. If we don't get our thing together, big brother will be watching us. He ain't gonna get me. Are you gonna let him get you?